Cube Radio. Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morinville-Ouellet.
Bonjour et bienvenue à Cube Radio pour cette toute dernière de la saison d'été. Ben oui, c'est avec excitation, mais aussi un peu de tristesse que c'est déjà le dernier épisode de la saison. D'accord, je vais devoir me lever un tout petit peu moins tôt pour le reste de l'année. Ça me réjouit. Je vais rejoindre Mario Dumont également dès la saison d'automne de la semaine prochaine. Ça aussi, ça me réjouit. Mais quand même, hein, on va s'ennuyer des collaborateurs et surtout ben, de tous ces beaux sujets qu'on a abordés cet été. Et croyez-moi, aujourd'hui, ben c'est pas une journée qui est en reste. Il y en a des éléments d'actualité qu'on va tout de même couvrir avec diligence. Parce que ce matin, on apprend quelque chose qui est venu honnêtement me chercher, me secouer moi-même. Vous avez peut-être entendu parler là, du cas judiciaire en ce moment contre Mathieu Martel. Mathieu Martel, c'est un coach de cheerleading qui était également, je vais essayer de le dire sans rire, un traducteur de l'âme. Ouais, un espèce de gourou spirituel. C'était ses deux occupations dans la vie. Deux occupations qu'il utilisait pour se déplacer et exister au sein de groupes de gens qui sont un peu vulnérables, hein? Des jeunes adolescentes, par exemple, ou encore des gens qui ont besoin de soins spirituels, peu importe ce que ça veut dire. Et donc, lui, en ce moment, je rappelle, fait face à 38 chefs d'accusation, agression sexuelle, leurre, extorsion, pornographie juvénile, exploitation sexuelle. Et là, au travers de tous ces chefs-là, ça se peut qu'il y en ait d'autres même qui se rajoutent, parce que semble-t-il qu'il y aurait d'autres victimes qui pourraient venir témoigner également contre Mathieu Martel. Mais tout ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on apprend qu'en ce moment, il y a eu une campagne de sociofinancement, là, un GoFundMe, qui a été créé pour aller aider Mathieu Martel. Ouais, pour aller récolter de l'argent pour que Mathieu puisse, et je vais citer ce qu'on disait dans la campagne de sociofinancement, « Mathieu ne peut pas travailler en ce moment malgré les comptes et les frais qu'il doit payer. » Pauvre petit coco chouchou, il se ramasse en prison parce qu'il a agressé du monde. Oh non, il peut pas payer ses factures. J'espère, c'est la moindre des choses, sincèrement, dans cette histoire-là. Évidemment, bon, M. Martel a le droit à la présomption d'innocence. Il y a un procès. Pour l'instant, il est présumé, là, évidemment, de tous ces chefs-là. Je m'en porte peut-être, mais quand même, ça a choqué beaucoup de gens, dont moi, là, de voir une campagne de sociofinancement pour quelqu'un qui est accusé de crimes aussi graves et aussi odieux. Ça s'appelait Entraide Héros, là. Avec un gros signe de Superman. Je pense qu'il y a quand même là, une espèce de décalage qui se crée dans ce temps-là. Et ce qu'on explique, entre autres, pour une femme qui a déjà participé à ces rencontres de lecture d'âme, hein, parce que c'est un traducteur de l'âme, donc il lit votre esprit, bien, semble-t-il qu'on le rencontrait, que ça coûtait assez cher, qu'il y avait des fois là, des séances là, de 30-35 personnes qui venaient le voir, qui payaient ben, jusqu'à 50$ par personne aussi pour assister à ces séances-là, puis qui aurait utilisé son emprise sur certaines personnes pour être capable ben, de commettre les crimes dont il est accusé en ce moment. Et là, ben, c'est triste parce que s'il y a des gens qui créent des campagnes de sociofinancement et qui essaient de l'aider comme ça, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont sous son emprise. Là. Encore des gens qui croient que le grand traducteur de l'âme, Mathieu Martel, a besoin d'être innocenté, qu'il n'a rien fait, qu'il est blanc comme neige. Ce sera à la justice de trancher ça pour les citoyens. Puis en attendant, ben, cette campagne-là a été suspendue, retirée de GoFundMe. C'est quand même troublant de savoir que ça a pu être créé en premier lieu. Ça a choqué déjà pas mal de monde. Étude super intéressante qui paraît aujourd'hui du côté de l'IRIS. C'est la chercheuse Anne Plourde qui, depuis plus d'un an, est en train de faire des études autour du repas qu'on donne à l'école, le fameux repas du midi. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais on est au Canada le seul pays de tout le G7, puis un des seuls de tout l'OCDE à pas avoir un programme universel de repas pour les élèves à l'école. Et là, on a calculé le prix exact que ça coûterait d'avoir à la fois un repas et même un service de garde, là, inclut tout ça dans un prix. Pour le Québec, ce serait 1,7 milliard de dollars que ça coûterait pour être capable justement de nourrir tous les étudiants, tous les élèves qu'ils désirent à l'école, de créer des cuisines dans les écoles où il n'y en a pas en ce moment, d'avoir du personnel de service de garde. Puis ce qu'on estime, c'est que ben, non seulement évidemment, ça augmente la performance scolaire, les saines habitudes de vie, mais aussi, autour de ça, ça crée des emplois. L'agriculture locale autour de tout ça qui va être favorisé. Là, on investirait beaucoup d'argent dans l'agriculture locale, justement, ce qui permettrait ben, de réinvestir dans l'économie puis de faire rouler tout ça. On dit que les bénéfices, ça serait plus redevable que l'argent qu'on dépenserait. 1,7 milliard que ça coûterait, 1,9 milliard qu'on estime, évidemment, estimation, mais quand même, qui retomberait là, en retombée économique ici au Québec. Donc, un programme qui est intéressant, qui vaut la peine d'être étudié. On regardera quelle sera la réaction du milieu politique autour de tout ça. Mais vraiment, ça pourrait être bon parce qu'en ce moment, on estime que 209 000 élèves et des poussières vivent dans l'insécurité alimentaire au Québec. On peut croire là, que tout le monde est nourri à sa faim, mais en contexte d'inflation en plus, ben, y a beaucoup de gens qui ont de la misère, beaucoup d'élèves qui n'ont pas un lunch adéquat pour leur journée et leurs activités. Ça, ça aide pas la concentration en classe. Donc, à voir, à suivre, mais je trouve que c'est une étude qui est extrêmement intéressante. Dans nos collègues, dans les pages de nos collègues du journal, on continue à s'attaquer au fonds vert. Hein? Puis quand je dis s'attaquer, c'est plutôt ben, de relater un peu comment on a dépensé l'argent du fonds vert. Parce que je rappelle, le fonds vert, ça sert à lutter contre les changements climatiques et à réduire les émissions de carbone. Hier, on apprenait que l'expert en énergie, Pierre-Olivier Pinault, là, qui est souvent venu ici à Cube Radio, entre autres, qui est extrêmement calé en tout ce qui est énergie et économie, qui lui a quitté là, le conseil, le comité consultatif sur les changements climatiques liés au fonds vert parce qu'il dit que c'est tout croche comment c'est géré, que n'importe qui peut piocher de l'argent un peu dans le fonds vert puis que ce soit pour lutter contre les changements climatiques ou pas, bof, c'est pas très clair. Et là, on s'est défendu de tout ça du côté, évidemment, ben, du gouvernement Legault, mais on apprend qu'on a puisé 4 millions de dollars du côté du gouvernement de la CAQ pour soutenir des entreprises de cultivation de cannabis. Vous allez peut-être me demander, ouais, mais c'est quoi, en quoi ça aide contre le changement climatique, le cannabis? Mais la réponse, c'est pas pantoute, pas du tout. Niet, zip, nada. Peut-être que fumer un joint, ça va vous donner envie d'être en communion avec la planète, puis ça va vous donner envie de la sauver. Mais à part de ça, il n'y a pas vraiment de raison, de motif expliqué pour pourquoi on a donné 4 millions de dollars lors de la légalisation pour soutenir des entreprises comme ça avec un fonds pour lutter contre les changements climatiques. Et là, ce qu'on dit, c'est que oui, mais c'est pour les aider à avoir de l'électricité propre. Et là, l'électricité est propre déjà au Québec. Puis en plus, c'est que les producteurs de cannabis, ça consomme énormément d'électricité. Là. C'est sûr, là. On fait de la culture hydroponique, aéroponique, ça prend des grosses lumières. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, à quoi ça ressemble, un endroit où on fait pousser du cannabis, mais ça prend beaucoup d'électricité. À un moment où on dit, ouais, c'est pas toutes les entreprises qui vont pouvoir toucher de l'électricité, il va falloir rationner, il va falloir aussi faire preuve ben, de frugalité là, en termes de sobriété énergétique. Au moment où on dit tout ça, ben, on justifie des grosses subventions à même le fonds vert à des entreprises de cannabis qui consomment beaucoup d'électricité. Je sais pas. Honnêtement, c'est vraiment douteux, puis ça commence à donner raison un tout petit peu à M. Pinault. Puis il va falloir parier que nos collègues, que ce soit au journal ou ailleurs dans les autres médias, vont continuer à fouiller sur le fond vert pour voir exactement comment ça a été distribué, tout ça. Ça n'a pas fini de faire jaser ce sujet-là, c'est bien certain. Bienvenue ce matin pour une dernière fois cet été à Cube Radio.
Son regard aiguisé sur l'actualité offre une compréhension de l'information. Alexandre Morin-Villouellet.
Culture et société.
Anaïs, on a encore une fois un réalisateur d'ici qui est honoré à l'international. Puis quand je dis à l'international, ça l'est pour de vrai. Parce que c'est le site très célèbre Rotten Tomatoes qui a fait son classement des meilleurs réalisateurs. Et Denis Villeneuve s'y trouve.
Exactement. Donc, ce site-là qui célèbre, tout d'abord, Alex, cette année, son 25e anniversaire, qui est un site de critique cinématographique ultra reconnu. Là. Donc, quand tu as une mauvaise note sur ce site-là, très souvent, les gens courent moins au cinéma, je te dirais, pour voir ton film. Et contraire, quand les notes sont ultra élevées et que les critiques sont là, c'est souvent un gage de franc succès. Et pour célébrer, justement, les 25 ans, Rotten Tomatoes a décidé de demander à ses lecteurs, et quand même 30 000 personnes qui ont voté, quel est le meilleur, qui est la meilleure réalisatrice, réalisateur des 25 dernières années. Et là, c'est important de le dire. 25 dernières années. Donc, on a des Francis Coppola de ce monde qui ne figurent pas dans ce top-là. Tu comprends? Parce que depuis les 25 dernières années, depuis les années 2000, il y a de nombreux réalisateurs qui ont su s'illustrer. Donc, il y avait tout d'abord, c'est vraiment comme un pool d'hockey, je te dirais. Là. Donc, il y avait plus de 64 réalisateurs, peu de réalisatrices, je te cacherai pas. Bon, il y a eu Sofia Coppola, entre autres, Greta Gerwig, mais tu sais, règle générale, je te dirais que c'est très masculin. Là, ce top-là. Ouais. Et les fans devaient voter. Donc, on mettait toujours deux réalisateurs, un en face de l'autre. Et là, les fans disaient, est-ce que je préfère un tel ou un tel? Et en début de semaine, c'était la grande finale. Et comme tu l'as mentionné, Denis Villeneuve faisait partie de cette finale-là, aux côtés quand même de Christopher Nolan. Donc, Denis Villeneuve, Dune, Blade Runner et j'en passe. Christopher Nolan, Inception, Oppenheimer. Et les gens ont voté. Puis la marge n'est pas si importante que ça, Alex. Donc, en première position, c'est Christopher Nolan. Donc, c'est lui qui a remporté avec 56 % des votes. Donc, si on fait le calcul, Denis Villeneuve est quand même passé avec 44 % des votes, là. Donc, on n'est pas non plus dans une différence de un qui a 90 % et l'autre 10. Donc, ça s'est joué serré comme ça tout au long de la semaine. Denis Villeneuve qui a affronté dans ce fameux pool-là des Alejandro González à qui on doit le film Babel, Bong Joon-ho Parasite ou encore Damien Chazelle de La La Land. Donc, c'était vraiment des réalisateurs très souvent oscarisés. Et Denis Villeneuve est arrivé officiellement en deuxième position, ce que je trouve, écoute, là, c'est quand même, c'est pas un petit site Internet bâti il y a deux jours de ça avec où deux, trois personnes ont voté. Là. Ce sont quand même 30 000 personnes qui ont voté sur ce site reconnu mondialement. Donc, excellente nouvelle pour Denis Villeneuve.
Oui, absolument. On l'aime, notre Denis. Puis en plus, là, moi, chaque fois que je vois des images du tournage de Dune, puis que je le vois avec sur le dos son hoodie de l'UQAM. Oh, j'ai un sentiment de fierté à Daïs qui vient me prendre aux tripes là. Chaque fois je le vois comme ça. Non, fier représentant du Québec, Denis Villeneuve. Puis, c'est quelqu'un qui prend aussi tout le temps de dire un petit mot en français aussi dans ses remerciements, de remercier les Québécois. Moi, je trouve ça chic, chic, chic de sa part. Il y en a qui s'enflent la tête quand ils deviennent internationaux là, comme ça, qui deviennent célèbres au travers de la planète. Pas notre Denis Villeneuve national. Je le félicite et je le sais.
J'ajoute, quand tu parles de simplicité, récemment, l'entrevue, il racontait justement que lorsqu'on dévoile les nominations aux Oscars depuis quelques années, il y a un rituel avec toute sa famille le matin. Ils se font des œufs, tout le monde ensemble, assis autour de la table. Et là, ils attendent les nominations, mais il dit ce rituel-là qui est d'une simplicité là, d'être avec ma gang, de faire des bons œufs bacon, là, afin de savoir si oui ou non on est en nomination. Tu sais, je trouve que hey, on est loin du champagne puis de la suite à Vegas. Là, tu comprends? C'est entre eux, les œufs. Moi, j'ai adoré cette petite anecdote-là. Je trouve que ça nous ramène justement à ce Denis Villeneuve-là qui est un humain puis n'a jamais laissé justement ce côté très important, ma foi, mais de côté, justement.
Écoute, je ne veux pas prendre parti dans la fameuse grève des scénaristes ni des réalisateurs à Hollywood là, qui se poursuit, mais la seule raison pour laquelle j'espère que ça va se régler rapidement, c'est parce que j'ai hâte que Dune revienne dans les cinémas, la deuxième partie. Je suis vraiment là, sur mon appétit en ce moment. Anaïs, tu me gâtes ce matin, tu me parles de ma bande dessinée préférée de tous les temps, Tintin, qui a un album qui est republié.
J'écoute!
Coupé!
La Castafiore!
La Castafiore! Celle qui est capable de faire éclater des lustres avec sa voix. Donc, l'album de Tintin, Les bijoux de la Castafiore, va réapparaître, Alex, en octobre prochain avec les dessins d'origine. Donc, ça a été annoncé officiellement hier et c'est l'éditeur qui a dit, moi, j'ai les planches de la version originale dans mes archives et ça traîne littéralement dans le sous-sol depuis les 60 dernières années. Donc, il s'est dit, on a eu le désir de restaurer le tout sans dénaturer. Là. Donc, ce sont vraiment les dessins originaux, mais quand même un peu comme des films, des chansons remasterisées. C'est la même chanson, mais le son est meilleur. Donc, les images sont plus claires. Et tout d'abord, je veux mentionner que ça a été, le 21e album de Tintin. Ça a été tout d'abord publié dans le journal de Tintin entre 1961 et 1962. Mais la version la plus connue du grand public, c'est celle publiée en 1963. Donc là, ils se sont dit, on va ressortir les vrais de vrais dessins avec, on va expliquer un peu justement tout le processus créatif derrière le travail d'Hergé avec des images d'archives, des explications un peu, des petites cases de les dessins, c'était quoi ces idées. Donc, le 4 octobre prochain, pour les fans, justement, de Tintin, ça fait partie je te parle de cadeaux de Noël, là, c'est parce que c'est vraiment loin, mais c'est quelque chose qui s'en vient à ce sens-ci de l'année. Là. Non, mais c'est vrai quand même, là, vous allez voir de nombreux albums, de nombreux livres sortir, toujours en vue peut-être de se faire offrir dans les prochains mois. Donc, ça fait partie, je pense, de quelque chose à vous offrir ou à offrir à un vrai fan de Tintin. Justement, en octobre 2022, il y avait les cigares du Pharaon aussi, de Pharaon, dis-je bien, qui était... Du pharaon.
Tu l'avais.
Bon, ça commence par D, les cigares de pharaon. Du pharaon, dis-je bien. Qui avait justement connu le même processus créatif, je te dirais, d'être republié. Et ça avait connu un franc succès. Donc là, cette fois-ci, on s'attaque à la Castafiore.
Ouais, puis c'est toujours fascinant de regarder un peu comment Hergé dessine. Mm-hmm. Tu sais, on s'attend, là, les belles cases, les belles planches, comme on les voit, Tintin. On est repassé dessus, repassé dessus, repassé dessus là, de la main d'Hergé. Non, c'est ça. Au début, c'est vraiment les gribouillis, mais on griffonne.
Mais c'est
on
des fait croquis, des, là, des littéralement.
Croquis. Ah, puis c'est extraordinaire, là, la main d'Hergé derrière tout ça. Les inspirations aussi qu'il est allé chercher dans l'ensemble de sa vie. Pour ceux qui sont fans de Tintin, mais qui n'ont pas plongé dans la vie d'Hergé, là, Georges Rémy, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder à quel point cet homme-là a voyagé pour aller chercher de l'inspiration dans tellement de musées, tellement d'endroits magnifiques pour être capable de les redessiner ou du moins de s'en inspirer pour dessiner autre chose après ça dans ses albums. Ça vaut la peine? Puis si quelqu'un pense à moi pour Noël, là, ah. Il y a des cadeaux. Voilà. Meg Ryan qui est de retour dans une comédie romantique, Anaïs.
Hey, Meg Ryan, le visage des années 90, celle qui a fait tellement de comédies, romantiques ou de comédies tout court, ou de films seulement romantiques. Mais Meg Ryan, écoute, c'est vraiment elle qui a marqué le cinéma dans ces années-là. Sa dernière apparition, je cherchais ce matin, et c'est en 2015 avec le film Ithaca, qui a été le premier film qu'elle a réalisé elle-même. Et c'était la première fois qu'elle retrouvait Tom Hanks à l'écran. Les deux qui ont joué ensemble à maintes reprises, notamment dans Vous avez un message avec les bouquets de crayons fraîchement taillés. Moi, j'ai tellement écouté ce film. Là, les vrais comprendront ce que je viens de mentionner, puis les autres m'ont juste trouvé un peu intense. Donc là, elle sera de retour officiellement dans un nouveau film, justement, comédie romantique, What Happens Later, avec David Duvonchny. Duvonchny. Voilà qu'on a vu dans X-Files. Donc, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu cet acteur-là également. Ouais. Donc, on est allé chercher deux acteurs très connus dans les années 90-2000 et qui, depuis un certain temps, s'étaient retirés justement de la sphère publique. Et les nostalgiques de ce type de film vont triper. Moi, j'ai déjà hâte à ça. Donc, c'est l'histoire en fait. Et je tiens à mentionner que le film a été notamment réalisé par Meg Ryan, celle qui est aussi derrière l'histoire. Et c'est l'histoire de deux anciens amants, OK, Alex, qui se retrouvent pour la toute première fois, se rencontrent à l'aéroport. Ils sont en transit, tempête de neige, et là, doivent passer la nuit à l'aéroport. Donc, ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus, mais les deux ont déjà eu une relation plus qu'amicale, je te dirais. Et là, la bande-annonce est sortie hier. Je ne le fais pas entendre, ça en anglais, puis c'est visuellement que c'est intéressant. Là. Donc là, tu vois Meg Ryan, bon, il y a des fans là, des mauvaises langues qui ont pris la parole, disant Meg Ryan a repris son vrai visage, ça faisait la une hier, parce que dans les dernières années, on avait vu des photos d'elle avec un visage un peu différent, je te dirais, en raison bon, d'injections, de botox et de tout ça. Regarde, ça y appartient, là, fait que là, lâchez ces jugements-là, s'il vous plaît, et dans le film, on retrouve, moi je trouve quand même la bête sympathique de Meg Ryan. Le film sortira au mois d'octobre, j'ai hâte, 13 octobre prochain, donc un grand retour pour Meg Ryan à l'écran. Je pense que ça paraît dans ma voix. Moi, je suis une fan de comédies romantiques des années 80. Mais c'était des vraies comédies romantiques dans les années 90. Il y en a tellement eu des bons films qui vieillissent bien, justement, qui passent à travers le temps. Donc, un beau retour pour ces deux acteurs-là.
Ouais, là, c'est on parle comme tu le dis, des vrais de vrais comédies romantiques. Là. Hein, le scénario, il est un peu prévisible, mais c'est pas ça qui est important. Hein? On est là pour voir le déroulement de cette histoire-là. Mm-hmm. Ça vaut la peine, j'ai hâte, moi aussi, là, Anaïs. Là, j'imagine que quelqu'un va bien finir par me faire voir ce film-là. On en reparlera à ce moment-là. Anaïs Gartin-Lacroix, merci pour cet été endiablé qu'on a vécu ensemble. Tu sais à quel point j'apprécie toujours là, de passer du temps en onde avec toi. On se retrouve là, bientôt à l'automne.
Oui, bonne dernière, Alex. Gros, gros bec. Salut.
Toujours dans l'action, il agit comme un moteur de changement. Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
Luc La Liberté et moi, cet été, on a passé beaucoup de temps à discuter, entre autres, ben, de l'âge des candidats présidentiels qui s'en viennent. Hein? Monsieur Trump approche le 80. Monsieur Biden l'a déjà dépassé. Hein? Puis c'est un peu ce que je me plais à appeler là, en blague la course de l'âge d'or. Hein? On sait pas trop si c'est une campagne présidentielle, une course électorale qui va se faire en marchette. Mais peut-être que, au-delà des blagues, on a raison quelque part. Parce que dans les dernières semaines, on avait vu là, Mitch McConnell, qui est un des plus importants leaders républicains au Sénat, entre autres, mais qui être dans une espèce de bug. C'est bizarre, on l'a vu comme gelé devant les caméras. Il s'est fait poser une question, il a arrêté de répondre, il est comme devenu tout perdu. Un peu comme, puis il a un certain âge quand même, M. McConnell, mais un peu comme quelqu'un, une personne âgée qui devient un peu sénile ou qui a des moments d'égarement. Et hier, encore une fois, M. McConnell se fait poser des questions en conférence de presse. Luc, et honnêtement, l'extrait vidéo est ahurissant à regarder, là. Mitch McConnell, vraiment, il fait pitié. On dirait vraiment un vieux monsieur perdu à une intersection au coin d'une rue, puis il occupe un des postes les plus importants aux États-Unis. Ça ramène les questions. Est-ce qu'il devrait avoir un âge maximal pour être dans les hautes fonctions publiques aux États-Unis?
Voilà, écoute, c'est un réel malaise qu'on ressent en écoutant l'extrait de la conférence de presse. Et il y a plusieurs choses, dans le court extrait qu'on nous a présenté, il y a plusieurs choses qui créent à la fois le malaise, mais qui suscitent un certain nombre de questions. M. McConnell, il a 81 ans, puis tu le précisais, c'est quelqu'un qui, au sein du Parti républicain, pèse lourd. Si on sait que Donald Trump, d'un côté, a monopolisé beaucoup d'attention, puis que c'est un peu un dernier... Enfin, de l'autre côté, M. McConnell, donc, autant Donald Trump est important, de l'autre côté, on n'a comme pas le choix de passer par Mitch McConnell. Autre chose pour M. McConnell, à 81 ans, il pourrait choisir en 2026 de ne pas se représenter. Donc, les sénateurs ont un mandat de 6 ans. M. McConnell, donc, sa réélection survient en 2026. Et c'est là-dessus qu'on l'interrogeait hier. Mais il peut difficilement se permettre, McConnell, de quitter maintenant parce que le gouverneur de son État est un démocrate. Et s'il quittait, s'il démissionnait, c'est le gouverneur qui remplace le siège ou qui comble le siège vacant au Sénat. Donc, vous avez un poids lourd républicain qui pourrait s'en aller. Donc, pour le Parti républicain, c'est un changement de donne là, dans le pouvoir. Puis en même temps, on pourrait le remplacer par un démocrate. Donc, c'est pas rien. Pendant l'entrevue, donc, c'est exactement ce qu'on lui pose comme question. Monsieur McConnell, allez-vous être candidat pour 2026? Et c'est là où, soudainement, tout... Pas juste la parole, le regard, la parole et le geste. Il semble s'accrocher à son lutrin. Et moi, une chose qui m'a frappé, bien sûr, c'est ce moment-là, mais c'est de voir à quel point deux personnes qui l'encadrent, une dame qui est sur sa gauche, puis ensuite un homme qui va se présenter sur sa droite, c'est long, là, c'est plusieurs secondes où il ne se passe absolument rien. Il est littéralement gelé. Mais ça n'a pas l'air de semer la panique chez les deux autres personnes. Ce que ça sous-entend, c'est on est habitué à ça. M. McConnell, dans la dernière année, il a été victime d'une chute sévère qui l'a tenu à l'écart là, du Sénat et de la politique pendant des mois. Donc, on peut penser que c'est un effet de cette chute-là. Ça peut être attribuable tout simplement aussi au processus de vieillissement. À 81 ans, les chances que ça se produise, les risques sont plus élevés. Donc, c'est particulièrement troublant de voir à quel point on pousse parfois la machine humaine en politique au-delà, je pense, de ce qui est raisonnable. Je suis pas neurologue, j'ai pas entendu de neurologue se prononcer sur cette question-là, mais assurément, ce n'est pas une situation normale. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est très handicapant? Ou c'est quelque chose qu'on peut traiter et qu'on peut améliorer? On verra. Mais reste qu'on a ça. Il y a un livre qui sort, j'en profite en même temps pour parler de ce livre-là. Il y a un livre qui sort qui s'appelle « The Last Politician », « Le dernier politicien ». Et c'est Joe Biden qu'on y présente. Et on a eu quelques informations privilégiées de la Maison-Blanche, un peu comme on l'avait fait sous Donald Trump. Hein, on écrit sur « ça a l'air de quoi, la Maison-Blanche, sous Joe Biden ». Et une chose qui ressort du livre, et l'entourage de M. Biden, lui, est loyal et fidèle. On parle pas de fuite comme il y avait à l'époque de Donald Trump où on coule des informations qui sont particulièrement dommageables. Mais c'est clair que M. Biden est fatigué. Et c'est clair que M. Biden, vous ne l'attendez pas tôt en début de journée pour des activités. Le président, il commence habituellement ses présences publiques autour de 10 heures le matin. Est-ce que c'est très grave pour le commun des mortels? Ben, ça dépend de votre emploi. Ce ne serait pas ton cas de pouvoir te lever à 10 heures le matin.
Non, ça c'est sûr.
Mais pour le président... Mais pour le président des États-Unis, il est sollicité, en théorie, 24 heures sur 24. Rien ne se décide à certains égards si le président n'est pas debout et qu'il n'assume pas le poste de direction. Donc, on a un des emplois à l'échelle internationale les plus importants, un des emplois les plus stressants, puis on a un système américain qui, on le sait, là, est à tout le moins, en tout cas, instable. Et dans deux postes stratégiques, la présidence et la direction du groupe républicain au Sénat, on a deux individus dont on peut légitimement, et ça fait longtemps que je dis, on ne fait pas d'âgisme quand on aborde ça. On ne dit pas des politiciens d'un certain âge ne doivent pas se présenter. Ce qu'on dit, c'est les risques pour la santé, ils s'accroissent normalement en vieillissant. C'est la triste réalité de l'évolution du corps humain. Puis on a deux politiciens qui, en tout cas à l'évidence, semblent avoir atteint des limites physiques et peut-être des limites intellectuelles ou cognitives, en tout cas, et on refuse de les pousser vers la retraite ou eux refusent, en tout cas, de prendre cette décision de laisser leur fonction entre les mains de gens qui sont plus aptes ou plus, en tout cas, énergiques à tout le moins ou en meilleure santé.
Bien, absolument, même qu'on envoie Joe Biden pour une réélection, pour une nouvelle campagne électorale, puis un autre mandat de 4 ans pour affronter qui? Un Donald Trump vieillissant aussi, là, même si on s'entend, là, c'est peut-être quelqu'un de plus fougueux, ou du moins qui a l'apparence plus fougueuse que certains autres, là, de par ses discours et ses critiques, mais M. Trump vieillit. Puis je rappelle que dans la dernière semaine, M. Trump a parlé de sa taille et de son poids, puis a sorti des chiffres qui sont... Ben, je vais laisser nos auditeurs juger ou ceux qui nous écoutent comme ça, parce qu'il y a un visuel également. On peut nous voir ici en visioconférence. Moi, je fais au centimètre près la taille de Trump dans la vie. Je suis 6 pieds 3 exactement comme Trump. Puis je pèse son poids allégué aussi. 215 livres, selon M. Trump. C'est exactement ma taille et mon poids. Sauf qu'on regarde une image de M. Trump puis on regarde une image de moi. Je suis pas sûr qu'on se ressemble beaucoup au point de vue physique. Est-ce qu'il fait 6 pieds 3? Certainement. 215 livres. Permets-moi d'en douter un tout petit peu, Luc. Je pense pas qu'il est en grande forme, lui, non plus. Là.
Non, on s'est rencontrés à quelques reprises. Alexandre était plutôt grand et élancé à 215 livres. Donc, je pense pas qu'on puisse dire de M. Trump qu'il est grand et élancé. Alors, restons polis, restons corrects, ne jouons pas dans... On va pas s'acharner sur le corps de M. Trump.
Non.
Mais disons qu'on vous met côte à côte, ce serait étonnant qu'on vous confonde. Et je parle même pas de la couleur de tes cheveux ou de ce teint qui est à peine basané de ton côté alors qu'il est orangé du sien. Mais donc, assurément, donc, M. Trump, je rigole parce que ben, c'est la coutume avec M. Trump, c'est l'habitude. Est-ce qu'on peut se fier à ce qu'il dit? Souvent, ben, le contraire d'un mensonge, c'est un autre mensonge. Disons que 215 livres, M. Trump est particulièrement généreux avec son régime alimentaire et les résultats qu'il porte, semble-t-il, souvent fièrement.
Oui, puis en tout cas, on verra autour de tout ça, mais ça reste quand même, mec, là, on parle de personnes qui sont vieillissantes qui s'en vont dans une des fonctions qui a été longtemps considérée comme ben, le poste le plus important de toute la planète. Pendant ce temps-là, Rudy Giuliani, l'avocat de M. Trump, Luc, ex-avocat, radié maintenant du barreau à plusieurs endroits, ben, on sait que sa chute est vertigineuse, là, depuis le poste de maire de l'Amérique jusqu'à monsieur qui perd sa teinture de cheveux dans conférence de presse devant une entreprise de jardinage. Et là, ça continue de chuter plus bas. Au-delà du fond, il y a un autre fond.
Voilà, M. Giuliani, bien, on le sait, il est devant les tribunaux. Il semble aussi qu'il ait des problèmes financiers ou en tout cas qu'il en aura éventuellement parce que toutes ces démêlées avec les tribunaux lui coûtent une véritable fortune. Ses amis comme M. Trump n'ont pas l'air prêts, ne sont pas solidaires jusque dans les déconvenus, donc on ne va pas lui avancer d'argent pour défrayer ses coûts devant les tribunaux. M. Giuliani, il était en procès contre des travailleuses d'élection de, ça ne s'invente pas, hein, ça rattrape tout le reste de l'actualité, les travailleuses d'élection en Géorgie. Donc, et c'est lui qui poursuivait les dames et il vient d'être débouté là-dedans. Et ce qu'on s'attend, c'est qu'il va revenir devant les tribunaux. Et cette fois-là, c'est carrément pour avoir menti. Sa cause ne tient pas la route. Et le prochain procès ou la prochaine rencontre devant les tribunaux, on a fait la preuve qu'il mentait. C'est reconnu. Donc maintenant, c'est à hauteur de quoi peut-on le pénaliser? Et si on appliquait, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire. Mais si on appliquait les balises habituelles, il va être soulagé d'une somme d'argent très, très importante, au moins dans les 6 chiffres. Donc, ce sont, rappelons-le, des travailleuses d'élection. Donc, quand on fait de la diffamation, on remet en question, dans certains cas, la légitimité du processus électoral, l'intégrité des travailleurs, l'honnêteté de ces travailleurs. Et dans le cas de l'équipe de Trump, c'est en lien avec le dossier pour lequel M. Trump est accusé avec 18 autres complotistes allégués. Ça, c'était comme en parallèle de cette cause-là. Et carrément, ce qu'on vient de dire, c'est « vous avez menti ». Comme Giuliani a menti ou très mal préparé ses dossiers dans les autres causes qu'il a tenté de porter devant les tribunaux au nom de Donald Trump. Donc, quand on parle de chute, tu l'as bien dit, hein, on n'a pas encore atteint le fond. Ça semble être une fosse abyssale dans le cas de Rudy Giuliani. Donc, autre déconvenu, mais je répète, qu'il y a des liens également avec les accusations déposées contre les 19 complotistes allégués. Donc, on va voir, est-ce que ce sont des vases communicants? C'est pas une bonne nouvelle pour Giuliani, ça c'est clair. C'est une bonne nouvelle pour les travailleuses élections qui vont voir leur réputation lavée. Mais en même temps, ça pourrait très bien déborder ou ça donne une idée de ce qui nous attend dans ce procès qu'on veut mener en même temps contre les 19 complotistes.
Luc, on a repris notre bonne vieille habitude. On a toutes sortes de sujets à aborder, mais on n'a jamais le temps de tous les faire parce qu'on s'amuse trop puis qu'on discute.
Ouais.
C'était déjà notre dernière de l'été, Luc La Liberté. C'était un plaisir incommensurable, honnêtement, de continuer à chroniquer avec toi. On se retrouvera sûrement cet automne pour d'autres émissions et d'autres mandats, mais c'était un réel plaisir d'avoir toutes tes connaissances et ta fougue ici sur les ondes cet été.
Plaisir partagé, Alexandre. Écoute, n'importe quand. Donc, on œuvre pour Cube tous les deux, donc nos routes vont se recroiser, puis la meilleure des chances pour la suite, Alexandre.
Un grand plaisir, Luc La Liberté. Gros merci.
Bye-bye.
Analytique. Il réfléchit avant de parler. Persuasif. Ses arguments sont convaincants. Alexandre Morin-Ville-Ouellet.
C'est déjà l'heure de la chronique sceptique, la toute dernière de cette saison d'été. Jessica Giroux, ma collègue, gestionnaire de nos réseaux sociaux et plus encore, celle qui a des cristaux sur son bureau, puis je riais de ses cristaux en commençant la saison, là, de moins en moins, parce qu'elle réussit à me convaincre, du moins partiellement, de certains phénomènes. Bonjour, Jessica.
Bonjour, Alexandre.
Qu'est-ce qu'on aborde pour cette dernière, là? Je me sens zen, c'est la dernière émission. Je sens que je vais être un peu moins de mauvaise foi aujourd'hui, vas-y.
Mais tu vas certainement être moins de mauvaise foi, parce qu'aujourd'hui, on se fait plaisir, Alexandre. Je suis moins là pour te convaincre aujourd'hui. On est plus là pour jaser et se faire du fun, et en même temps, pour mettre la table pour la saison d'automne qui débute la semaine prochaine.
Ben absolument, hein? On a nos animateurs habituels qui reviennent, Alexandre Dubé aussi maintenant qui va occuper le poste d'animateur du matin. Moi, je retrouve Mario Dumont pour l'émission du retour. Mais qu'est-ce que ça a à voir, tout ça, avec l'ésotérisme?
Tu le sais, Alexandre, tu l'as mentionné tout au long de l'été, je suis une passionnée d'astrologie et d'ésotérisme, mais savais-tu que cette passion, je ne suis pas la seule à l'avoir parmi tes collègues de Cube Radio?
Ah, il y en a d'autres qui se cachent. Leurs cristaux sont peut-être pas sur le bureau, mais sont dans leur poche.
Effectivement, et il y a notre estimée collègue Cybèle Olivier, journaliste à la recherche. Avec moi, on discute souvent d'astrologie et l'autre jour, on parlait, on s'est demandé et si il y avait un monde parallèle dans lequel on recrutait dans les entreprises avec le curriculum vitae, bien évidemment, mais aussi avec une pièce jointe de la carte du ciel.
Oh mon Dieu! C'est comme mon pire cauchemar, on dirait. Attends un peu. Fait que là, on aurait, avec mon CV, il faudrait en plus que je joigne une carte du ciel.
Effectivement.
Oh,
et là, les employeurs essaieraient de former des équipes avec les signes astrologiques. Est-ce que ça serait complémentaire? Est-ce que c'est des personnalités qui s'opposent? Donc, inquiète-toi pas, là, Alexandre. On s'est pas dit que c'était la solution miracle pour le recrutement, mais on s'est posé la question, et si Cube avait recruté ses animateurs en se basant sur ce principe-là?
OK, là, ça commence à m'intéresser, par contre. Par exemple, on ferait des équipes, on essaierait de faire des compatibilités. J'imagine que dans l'astrologie, je suis pas connaisseur, mais il y a des signes qui s'entendent mieux entre eux. Là. Disons, je suis déjà allé sur une date, par exemple, puis une fille qui dit « Ah! Oh, toi, t'es capricorne, hein? Ah! Oh, ben, moi, les capricornes, puis elle partait sur quelque chose, puis évidemment, mes yeux s'écarquillaient, puis roulaient jusqu'en arrière de ma tête, mais J'imagine qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans.
Effectivement, c'est le fond de pensée qu'on avait avec Cybèle. On s'est demandé, est-ce que les équipes auraient changé? Est-ce qu'on aurait la même programmation d'été? Et principalement, est-ce que nos animateurs sont bien où ils doivent être dans la vie selon leur signe astrologique?
OK, je vous écoute. Ça, je trouve ça fascinant.
On va faire un tour ensemble, mais avant, tu l'as dit, tu as été à la barre de l'émission tout l'été, donc je ne peux pas passer outre toi. Mon cher Capricorne, je vais parler des raisons pour lesquelles tu es bel et bien à ta place en tant qu'animateur.
Je t'écoute.
Un Capricorne, c'est un être qui est très loyal, donc niveau carrière. Toi, si tu commences à quelque part, t'as de fortes chances de vouloir rester à cet endroit-là et de briller avec la station. Comme de fait, ça fait bien longtemps que t'es avec Cube Radio.
Depuis le jour 1, effectivement.
Un Capricorne, c'est un être qui est très déterminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus déterminé à Cube Radio qu'Alexandre Moranville-Ouellette? Je ne crois pas.
Ben, je veux pas faire de l'ombre aux autres qui sont extrêmement déterminés ici, mais d'accord.
Tête dure, Capricorne, oh très boy. Tête dure. Et tu nous l'as prouvé tout au long de l'été durant les chroniques sceptiques. Tu as une tête un petit peu dure, Alexandre.
À peine, à peine.
On va te donner un compliment. Un Capricorne, c'est ultra paternel. Mais pas dans le sens « je veux absolument avoir un papa », mais dans le sens « je veux toujours m'assurer que tout le monde alentour de moi est bien et confortable ». Par exemple, là, il y a quelqu'un qui a froid, t'es le premier à passer ta veste. Tu veux toujours que tout le monde soit bien.
Oh, c'est vrai, ça. Charlotte, elle gèle comme une petite crotte tout l'été, l'air climatisé ici en studio. C'est vrai qu'elle a bénéficié de mes vestes.
Effectivement. Maintenant, on passe aux animateurs d'automne. Tu le dis, c'est Alexandre Dubé qui va prendre la barre de l'émission matinale. Alexandre Dubé, c'est un Gémeaux.
Oh!
Un Gémeaux, c'est un signe qui est très érudit, intelligent. C'est comme une encyclopédie sur deux pattes. Là. Ça pose toujours tout plein de questions et ça t'écoute parce que ben ça veut apprendre de toi pour les réponses. Ça se documente, ça l'apprend tout et ça va même aller se documenter sur des sujets qui peuvent les effrayer.
Oh, j'enregistre tous les documentaires de la Shark Week, honnêtement là, et j'en viens, je sais pas où je vais trouver le temps d'écouter ça. J'ai des documentaires de l'année passée sur mon enregistreur que j'ai toujours pas eu le temps d'écouter avec la TV, la radio à travers ça. Puis je suis tellement maniaque qu'à un moment donné, tu viens que tu connais même les caméramans de Shark Week.
Donc, la semaine des requins, là, ça, c'est la fameuse semaine où on met des documentaires sans cesse sur les requins, hein, des animaux fantastiques, soit dit en passant, qui sont souvent menacés de disparition. Et là, ça, ils enregistrent, enregistrer des documentaires. Je pensais même plus que c'était quelque chose qui se faisait en 2023, mais il est passionné pour vrai.
Et oui, puis en plus, ça le terrifie. Il aime pas ça, les requins. Okay. Il aime pas ça. Ça, c'est très Gémeaux. Il y a pas plus Gémeaux qu'Alexandre Dubé d'enregistrer des documentaires des animaux qui le terrifient.
OK, c'est bon.
Toujours à la barre de son émission, on a aussi notre cher Richard Martineau. Richard!
C'est un quoi, Richard?
Un lion.
Ah oh ben, je dis ça, oh ben, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais il me semble que je vois sa crinière de cheveux blancs, puis je me dis que ça pourrait avoir une belle incidence.
Le roi du zodiaque, le lion, c'est un être qui est littéralement impossible d'ignorer. Un petit peu comme Richard Martineau, le lion va dire toujours ce qu'il pense haut et fort. Il est drôle, il est attachant, et surtout, il est vraiment protecteur avec ceux qu'il aime et avec ses idées. Moi, je pense vraiment que Richard Martineau, il est parfaitement un lion. Il le démontre tous les jours en ondes. Et est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui rugit plus fort à Cube Radio que Richard Martineau?
Ouvre que les fabricants de supports à bananes sont plus utiles que les influenceurs.
Dis-le.
Vraiment, là, c'est ce que...
Mais j'influence les gens sur différents sujets qui sont importants.
Mais vous vendez des bébelles.
Oui, mais Richard...
T'as l'air la vie facile. T'sais, ils ont des beaux chars. Oui, mais le char a été passé pendant 2 jours pour qu'il se filme dans son beau char. Ouais. Puis là, les jeunes, ils disaient, j'aimerais ça.
C'est de la généralisation parce que...
S'il vous plaît.
Oui, on l'entend rugir sur certains sujets comme ça. Mais c'est vrai, Richard, c'est quelqu'un qui entoure tellement bien le monde autour. Il a l'air, là, pour ceux qui le connaissent pas dans l'intimité, il a l'air de quelqu'un d'absolument acerbe, tu sais, puis aiguisé, là, que tu vas le rencontrer. Il va être tranchant, tranchant, tranchant. C'est le gars le plus relax au monde, puis tranquille, puis aimable dans l'intimité. Il y aurait plus de gens qui auraient avantage à connaître le lionceau que le gros lion de Richard Martineau.
Ah, oh, c'est tellement bien dit! Je suis tellement d'accord avec toi! Puis parlant de lion qui rugit fort, on en a un autre qui est capable de rugir à Cube Radio.
Ben moi, je suis pogné avec lui.
Je te l'avais dit, il y a de bon humeur.
Est-ce que tu reconnais notre cher Benoît Dutrisac?
D'entre mille, oui.
Benoît Dutrisac, qui est aussi de retour avec nous cet automne, lui, c'est une vierge. Une vierge, c'est littéralement un des signes les plus analytiques de tout le zodiaque. Ça pose des questions, ça creuse. Dans un groupe, souvent, ça va plus être à l'écart parce que ça va observer, ça va analyser. Et quand ça parle, c'est vraiment pas rare qu'on se met à rire. On se dit, ben voyons donc, y a-tu vraiment dit ça? Parce que, étant donné que la Vierge, ça passe beaucoup de temps à analyser, mais quand ça dit des jokes, ça dit un petit peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
Ah, c'est bon ça. Puis c'est vrai que Benoît, il est comme ça. Tu vas pas l'entendre pendant quelques instants. Puis à la minute où il ouvre la bouche, tout le monde, soit t'as un mâchoire à terre, soit tu ris aux larmes, soit t'es terrifié des fois de ce qui vient de te sortir. Non, c'est vrai que... Ben, à date, regarde, tout fit. Je vais te le dire, là, à date, je suis impressionné. Continue parce que là, t'es sur toute une lancée. Je suis assis, puis... J'ai le goût d'être sceptique, j'ai le goût de te faire des commentaires tranchants. Ouais, mais c'est pas vrai. Non, j'ai rien à dire en ce moment. Je te laisse continuer sur ta lancée, Jessica, c'est très bon à date.
Parlant de commentaires tranchants, les Vierges sont bien connues pour des commentaires tranchants, surtout quand elles n'arrivent pas à avoir les réponses qu'elles désirent.
J'ai goûté, c'était dégueulasse, Madame Tessier. J'étais chez vous à Cité de la Santé. C'était infect, c'est-à-dire une tranche de jambon, j'aurais pu la mettre dans mon soulier, j'aurais marché avec.
Oui, ça, c'est Benoît du Trisac, hein?
Effectivement, c'est du Benoît tout craché. Maintenant, on va passer à notre estimée collègue, Yasmine Abdel Fadel. Yasmine, c'est une balance.
Ouh!
La balance, ça le dit un petit peu dans le nom, ça l'aime que tout soit juste, que tout soit balancé. C'est un signe qui va toujours poser le pour et le contre avant de se prononcer. En parallèle, c'est aussi un signe qui est vraiment blagueur, qui est drôle. Comme la Vierge, c'est presque impossible de passer un moment avec une balance sans éclater de rire. C'est toujours, ça vient piquer le bon petit mot pour te faire éclater de rire. Et pour la balance, l'égalité, c'est vraiment, vraiment crucial. C'est vraiment pas rare de voir une balance péter les plombs face à des inégalités et des injustices.
Non, non. C'est grave. Puis moi, j'en ai soupé. Des excuses de la CAQ sur l'immigration. Parce que, en même temps, là, le premier ministre, il était où ce matin? Il était à la Chambre de commerce à parler à un parterre économique. Puis, dans le cadre de cette conférence, ben, qu'est-ce qu'il dit, notre premier ministre? Ah ben, que c'est suicidaire. C'est suicidaire de recevoir plus de 50 000 immigrants. Il a décidé ça, lui, François Legault, que c'était suicidaire. Pas que ce soit pas idéal, pas que ce soit pas inacceptable, pas que ce soit contre-productif, pas que ce soit nuisible, à la limite. Non. Suicidaire, toi et chose.
C'est quelque chose quand même, hein. Puis c'est drôle parce qu'elle est toute douce, elle est toute gentille, Yasmine. Puis c'est tellement de belles présences lumineuses. Mais justement, quand il y a des injustices comme ça, tassez-vous, mesdames et messieurs. Elle arrive. J'ai hâte aussi de revoir Yasmine. Puis c'est pas pantoute parce qu'elle m'amène plein de nourriture tout le temps, puis qu'elle est tout le temps en train de commander de la bouffe. Yasmine, bon, un tout petit peu quand même. on l'aime, on a hâte de la revoir elle aussi.
Parlant de quelqu'un qu'on aime et qu'on a hâte de revoir aussi, on a notre estimée collègue Sophie Durocher, qui, elle, est un scorpion.
Oh!
Le scorpion, c'est un signe vraiment passionné qui vit tout avec intensité.
OK.
Lorsqu'un scorpion a une idée dans la tête, tassez-vous de là. C'est un signe qui est déterminé, qui est travaillant. Et Alexandre, le scorpion aussi, il est victime, en fait, d'une espèce de préjugé astrologique qui veut dire que le scorpion, il est difficile d'approche, il est froid, mais c'est vraiment pas ça. Le scorpion, en fait, c'est qu'il est très sélectif. Il sait comment protéger son énergie. C'est difficile de rentrer dans la vie d'un scorpion, mais lorsque c'est fait, tu peux t'attendre à avoir toujours une dose d'amour, des petites attentions, et de toujours être touché par leur amour.
Le 8 septembre 2023, ça va faire 20 ans que Richard et moi, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, Richard et moi, on s'est fait photographier en dessous de l'échangeur turco parce que le couple, pour nous, ça représentait l'union de deux êtres dans un monde froid et dur. Richard, est-ce que le 8 septembre cette année, tu veux qu'on se remarie?
Oh, puis c'est vrai, il avait demandé en direct, en plus, pour qu'il se fasse un remariage. C'est drôle quand même que Sophie et Richard soient comme les deux animaux dangereux avec des pics ou des crocs dans le dans le zodiaque. Je vais mentionner ça comme ça, mais ils sont parfaits ensemble en plus.
Il y a un terme anglophone que je ne peux pas trouver l'équivalent francophone, mais on dirait un power couple.
Un couple de puissance.
Oh,
voilà.
Alexandre, merci.
De rien. On salue Antoine Robitaille qui m'aurait trippé si je n'avais pas mentionné comme ça en français le terme. On salue mon oncle Saint.
Ou Sophie Durocher aussi.
Hein. Ouais, c'est vrai. Je veux pas le scorpion vient de me piquer.
Toujours à la barre de son émission, on a notre cher Mario Dumont avec qui tu as le plaisir de co-animer. Et Mario, c'est un taureau. Un taureau, c'est un signe extrêmement cartésien, à prime abord assez réservé, mais un peu comme la Vierge, ça va être très analytique et lorsque ça parle jamais pour rien dire. Le taureau, c'est un signe qui est vraiment, vraiment aventurier, épicurien, ça l'adore sortir de sa zone de confort, voyager, goûter, visiter. Un autre point, un taureau extrêmement loyal, extrêmement familial. Donc, dès qu'un taureau, ça va trouver sa douce moitié, ah ouais, on pack tout ensemble à l'aventure.
On avait loué sur VRBO, l'espèce d'ancien Airbnb qui existe encore, une maison, un appartement à Cracovie, en Pologne. Puis le matin même, le propriétaire m'écrit pour dire, écoutez, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, de dire, écoutez, là, j'ai quelqu'un qui est dedans, il part pas, puis vous avez plus de place. Et finalement, là, on s'est mis, là, il restait presque rien à louer. Puis on a trouvé un appartement qui avait l'air assez chic, tu sais, quand même, puis tout ça. Puis c'est un petit peu plus cher que notre budget. Mais là, on dit, on peut pas niaiser, tu sais, il faut ce qu'il faut. Puis on s'en va là. Puis se rendre compte, en arrivant, en rentrant, ma blonde, c'est bizarre, le bain, il est bien transparent, le bain comme vitré. Puis là, on regarde, c'était une place où il tourne des films porno.
Puis on a tellement des anecdotes de voyage comme ça, Mario. C'est sûr, là, à force de le côtoyer, toute la description que tu viens de faire, elle est excellente. Mario, évidemment, c'est quelqu'un de cartésien, analytique, mais qui tu sais, il parle pas pour rien dire. Quand il dit quelque chose, des fois, tu sais, il peut passer quelques minutes en silence, il est sur son sel, il lit des nouvelles, puis comme dans sa bulle, puis là, d'un coup, il me sort une joke ou quelque chose qui est complètement hors champ. J'ai rien vu venir, le champ gauche, puis je suis comme figé. Puis là, je pars à rire comme un fou, mais je suis figé pendant quelques instants. Je suis comme, viens-tu de me dire ça? Ça sort d'où? Mais c'est ça lui correspond parfaitement. Mais c'est fantastique. Pour vrai, là, regarde, je te le dis, je fais pas un show pour la radio ce matin. Je suis étonné. On dirait, dans ma tête, à moi, on dirait que t'es allé chercher les descriptions des animateurs, puis tu fais semblant que ça fit avec un signe. Mais je suis convaincu que c'est le contraire. Honnêtement, bravo. Je suis impressionné en ce moment.
Un grand merci. Veux-tu qu'on termine avec Antoine Robitaille?
Bien évidemment.
Antoine Robitaille, c'est un cancer et je te confirme qu'un cancer, ça fonctionne très, très bien avec l'être qu'est Antoine Robitaille. Un cancer, c'est un être extrêmement sensible, habituellement assez facile d'approche et surtout assez émotif. Que ce soit bonheur ou frustration, le cancer, il va tout ressentir avec intensité. Une autre caractéristique du cancer, il est vraiment loyal, ponctuel, très minutieux dans son travail et il supporte pas quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements.
Ah, j'en reviens pas. C'est tout, j'en reviens pas. T'es au pouvoir depuis 5 ans, t'as promis une affaire de même. Et quoi, 6 ans plus tard, ben non, 5 ans plus tard, on se retrouve avec quoi? Ben, Mme Guilbeault qui nous dit, encore une fois, sans étude, qui nous dit, ben là, j'ai choisi un nouveau mode, là.
C'est Antoine Robitaille, tout craché, tout ça. Puis c'est vrai qu'il était... tellement travaillant, ce gars-là. Il est constamment en train de bosser sur quelque chose et au final, ben, quand ça vient le chercher émotionnellement, ben, il est émotif, mais dans le bon sens, qui analyse ça dans son travail. On le salue, lui aussi, on a hâte de le revoir dans la grille de programmation. Puis Cybèle, Olivier est également régie, elle nous regarde, on la salue, elle qui a travaillé avec toi. Jessica, Giroux, c'était un plaisir cet été, honnêtement, d'ouvrir mes chakras et mes horizons à tous ces sujets que tu nous as amenés. Je t'avoue que celle-là, à date, c'est la chronique qui vient le plus me faire... C'est-tu vibrer? Vibrer l'âme? Bon, je suis pas bon pour utiliser des termes ésotériques. Jessica Giroux, merci.
Merci à toi, Alexandre.
Créatif. Alexandre Morinville-Ouellet rêve d'un monde meilleur. Et pour cela, il remet en question les conventions. Les rencontres de l'heure.
C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter.
David Santa Rosa.
Tu sais, la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance.
La rencontre, Morinville, Santa Rosa.
Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
Ça a toujours été un peu un bruit qui courait dans les milieux historiques, dans les milieux politiques, là. L'espionnage, ni plus ni moins, qu'aurait livré le gouvernement fédéral envers le mouvement souverainiste au Québec, hein. Et semble-t-il, selon un article du Globe and Mail, du moins qui sort ce matin, que c'était pas du tout des chimères ou des rumeurs, cette histoire-là. Il y a bel et bien un fondement historique. Pierre-Éliott Trudeau, ben, espionnait activement puis voulait détruire même le mouvement souverainiste au Québec.
Oui, exactement. Ben, en fait, on dit hein, que c'est le bureau de Pierre-Luc Trudeau, hein, son chef de cabinet, Marc Lalonde, parce qu'évidemment, le premier ministre ne veut pas trop se salir les mains, donc il mandate des subalternes pour faire le sale travail, en quelque sorte. Donc oui, ça se serait passé dans les années 70, au lendemain de la crise d'octobre. Et on peut comprendre qu'au lendemain de la crise d'octobre, évidemment, ben, je veux dire, le FLQ, c'est ni plus ni moins qu'une cellule terroriste, hein, c'est-à-dire qu'on utilise la violence à des fins politiques. C'est ça la définition du terrorisme. Eh bien, donc on peut comprendre qu'il y aille la GRC qui veuille s'en mêler. Une fois que cela s'est dit, ben on est supposé de s'intéresser aux terroristes seulement, pas à monsieur, madame, tout le monde qui a des allégeances souverainistes. Et c'est ça qu'on a fait, en fait, avec cette cellule-là, cette cellule ultra-secrète de Pierre Trudeau, là. Donc oui, c'est l'instrumentalisation de la police à des fins politiques qui est absolument épouvantable.
Ouais, et puis ce qui est drôle, c'est que ça donne raison à des gens comme Jacques Parizeau, qui était reconnu pour être un peu, quoi, paranoïaque, ses bords, mais qui, finalement, il avait complètement raison de l'être, là.
Oui, vraiment, vraiment. Donc, d'ailleurs, ça, c'est une lecture incontournable, à mon sens, la biographie de Jacques Parizeau par Pierre Duchesne en 3 tomes. C'est vraiment exceptionnel. Donc, on apprend, c'est ça, Jacques Parizeau qui est vraiment paranoïaque, qui s'imagine qu'il y a des micros partout. Donc, par exemple, des fois, il va dire, OK, on va discuter d'un projet aux toilettes, on ouvre les robinets, question d'empêcher que les micros enregistrent notre voix comme il faut. Et dans l'entourage de Jacques Parizeau, on était comme, ben là, est-ce que Jacques Parizeau perd la carte finalement? Et on se rend compte plusieurs années plus tard, plusieurs scandales plus tard, qu'il avait bel et bien raison. Et je veux revenir un instant, Alexandre, sur la figure de Pierre-Éliott Trudeau. C'est assez intéressant parce que dans le Canada anglais, c'est Monsieur Droits et Libertés. Hein?
Ben oui.
Et à raison, il a quand même fait des choses intéressantes sur le droit des homosexuels, notamment. Mais quand tu regardes la crise d'octobre, la loi des mesures de guerre, quand tu regardes ce qui vient de sortir hier dans le Globe and Mail, tu te dis, ben non, c'est pas Monsieur Droits et Libertés, c'est Monsieur Droits et Libertés quand c'est pas ses adversaires politiques, au final.
Ah, puis il a été connu comme ça aussi. Puis plus les années passent, plus on s'en rend compte. Hein? Pierre-Éliott Trudeau, c'était quelqu'un d'impitoyable avec certaines franges de la société, avec certaines personnes. Quelqu'un, là, Monsieur Just Watch Me, comme il avait déjà dit, là, c'est tout un personnage, lui aussi, tout un caractère. Puis encore une fois, David, c'est la preuve. Puis c'est fou, je vais le rappeler, que le Canada a directement tellement trouvé le mouvement souverainiste menaçant, qu'il pouvait tellement, puis menaçant dans le sens où il pouvait réussir, là. On aurait pu l'avoir, notre pays, au Québec, jusqu'à ce que le fédéral s'en mêle et décide activement de venir contrer un mouvement politique démocratique avec des moyens qui ne le sont pas du tout, oserais-je dire. Moi, je trouve ça cinglé qu'en 2023, mais là, je comprends que ça fait des années puis qu'on a une nouvelle génération puis que la mienne, hey, on était à peine vivant pendant le dernier référendum, mais excusez-moi, pardon, c'est le genre de nouvelles, c'est le genre de dossier qui devrait faire flipper les gens au Québec de se rendre compte que ben on a déjà voulu avoir un référendum, avoir des élections libres, être capable de décider sur notre propre destin, qu'on a interféré à coup d'espionnage dans nos affaires ici au Québec. Je trouve ça odieux, je trouve ça détraqué de la part du fédéral, puis je m'excuse, mais c'est des événements historiques qui devraient être impardonnables. Malheureusement, ben ça tombe trop souvent dans l'oubli. J'aimerais ça que ce soit autre chose que le Globe and Mail dans le reste du Canada anglais qui rapporte des nouvelles comme ça. J'aimerais ça qu'on en parle ici, puis sais-tu quoi, David? J'aimerais ça qu'on en parle dans les cours d'histoire au Québec. Qu'on le sache, ce qui s'est passé, qu'on arrête de le cacher comme ça. Il n'y a pas un programme qui devrait occulter ce qui s'est passé. La nuit des longs couteaux, la crise d'octobre, tous les accords du lac Meech, tout ça, là, on dirait qu'on passe par-dessus. Vite, dans nos cours d'histoire au Québec. Là, puis je ne veux pas critiquer tous les cursus d'histoire, là, mais moi, de ce que je me souviens, là, maudit qu'on a passé quelque chose comme 5 ans à parler des maisons longues puis des wigwams, mais on n'a jamais parlé en long en large de ce qui s'est passé puis des trahisons du gouvernement fédéral envers le Québec. Je trouve ça plate parce que si plus de gens étaient au courant de ce qui s'est passé pour vrai dans notre histoire, mais je pense qu'il y en aurait qui auraient plus le feu aux fesses, pardonne mon expression.
T'as sûrement raison. Mais, puis tu sais, un référendum sur l'avenir d'un pays, sur la fondation d'un pays, je pense qu'on peut s'entendre que c'est pour dire que c'est le vote le plus important possible. Et puis à preuve, ben de mémoire, là, en 1995, c'était 94% des gens qui sont allés voter cette journée-là. C'est, je veux dire, c'est du jamais vu, c'est assez exceptionnel, là.
Ouais.
Donc, manifestement, c'est un enjeu important démocratique et c'est pas tout le monde qui joue selon les mêmes règles du jeu. Ça nous rappelle d'ailleurs qu'en ce moment, ces jours-ci, le PQ veut rendre public tous les documents par rapport au référendum de 95, donc par rapport au financement. C'est connu, on le sait qu'il y a eu des financements illégaux, on le sait qu'il y a eu des menaces, même dans des entreprises privées. Hein, il y a des entreprises qui ont dit si le oui rentre, ben vous allez perdre votre job, donc assurez-vous de voter non quand vous allez aller voter. Donc ça, c'est de l'intimidation, t'as pas le droit de faire ça. Donc c'est toutes des choses qu'on sait, mais qu'il faut creuser davantage. Comme tu le dis, on a l'impression que ça commence à faire longtemps, 95, les années 70 encore plus, mais c'est hier matin, 1995, faut pas s'imaginer que c'est si loin que ça. Et j'ajouterais, faut pas s'imaginer que s'il y avait un référendum demain matin, que le fédéral agirait différemment. Je veux dire, souvent, le passé est garant de l'avenir, là.
David, c'est des mots les plus sages, honnêtement, que tu fais prononcer par rapport à tout ça. Non, moi, ça m'inquiète. Comme je dis, on dirait qu'on ignore une partie de notre histoire. On veut être fiers, puis on veut en parler de ce qui s'est passé au Québec. Mais c'est parce qu'il y en a des moments qui sont pas juste des échecs. Il y en a qui, c'est littéralement des trahisons. Je vais le dire comme ça. C'est des trahisons dans notre histoire. Puis on ne les apprend pas assez. Je sais pas par quel type de sensibilité puis qu'est-ce qu'on veut éviter à nos jeunes ici. Mais il faudrait raconter l'histoire telle qu'elle est parce qu'il y a juste une histoire. Hein? Il y a une vérité derrière tout ça. Il faut la raconter telle qu'elle est. David Santarossa, c'était nos chroniques de l'été. Un plaisir vraiment d'avoir passé ce temps avec toi. Toutes sortes de belles réflexions. Et évidemment, je te souhaite la meilleure des rentrées scolaires aussi parce que tu es dans ce milieu en ébullition en ce moment au Québec. Assurément qu'on va continuer à parler d'éducation avec toi là, dès la saison d'automne. Merci beaucoup pour tout, David.
Merci pour tout, Alexandre. On se reparle bientôt.
Salut. Salut.
Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre Morin-Villouellette.
Mercredi, le ministre de la Défense nationale du Canada, Bill Blair, a annoncé qu'on abrogerait, donc on annulerait complètement des règles qui sont relatives à quelque chose qui existait dans les forces armées canadiennes depuis quelques années, le devoir de signaler. Ce qui était au départ censé être une mesure pour contrer tout ce qui est évidemment là, inconduite sexuelle et autres dans l'armée, mais c'est avéré finalement ne pas vraiment fonctionner, même nuire dans certains cas. Pour décortiquer tout ça avec nous, Michel Drapeau est colonel à la retraite et avocat en droit militaire. C'est souvent exprimé sur ce genre de questions. Bonjour, Monsieur Drapeau.
Bonjour à vous.
Qu'est-ce que c'est exactement le devoir de signaler, puis pourquoi on a décidé que c'était finalement contre-productif?
Ben, c'est parce que ça faisait aucun sens et Mme Arbour a fait recommander sa recommandation numéro 11. Alors, c'est Mme la juge Arbour qui a fait une étude dont les résultats ont été publiés au mois de mai 2022 avec la recommandation d'arrêter ça. Alors, les victimes, soit d'inconduite ou d'assaut sexuel, ou ceux qui étaient témoins d'un événement ou ceux à qui on avait pris connaissance de cette activité-là, avait l'obligation de dénoncer ça, et souvent, ça crée un préjudice additionnel à la victime. Peut-être que la victime était tout simplement traumatisée par ce genre de choses-là. Elle voulait attendre le temps opportun pour soit le rapporter cette chose aux autorités militaires, judiciaires, policières, on prenait les devants, puis elle était prise au dépourvu. Et plus souvent qu'autrement, c'est Mme Arbour qui disait que ça créait un préjudice additionnel à la victime. Et surtout, lorsqu'on parle d'assaut et même d'inconduite proprement dit, dépendant des circonstances, il s'agissait de comprendre que lorsqu'une personne avait le devoir de signaler, ce devoir-là devait se faire à la chaîne de commandement de la victime. Alors, et souvent, toute inconduite de cette façon-là, souvent, c'est quelqu'un dans la chaîne de commandement. Mmh. Alors, pas seulement qu'elle était obligée d'être victime de cette inconduite-là ou de cet assaut-là, mais avait le devoir au fait de rapporter ça immédiatement, soit à son patron immédiat ou même à la personne qui était responsable. Ça faisait aucun sens. Alors, moi, ce qui me surprend, et je suis content que finalement le ministère a répondu à la recommandation du juge Arbour, mais ça a pris 15 mois, 16 mois avant de le faire. Et c'est une des 48 recommandations qui ont été faites par Mme Arbour. À ce stage-là, les choses ne changent pas vite. Et c'est pas ça qui me donne confiance que le ministère vraiment comprend la crise à laquelle ils font face, l'effet de cette crise-là sur le recrutement, la rétention des membres des forces.
Oui, parce que là, quand on dit qu'on était obligé de signaler, c'est qu'il y avait quoi, des pénalités, des amendes aux gens qui dénonçaient pas?
On pouvait, au fait, lui donner un code de discipline pour manquement à son devoir, et puis de cette façon-là, prendre des mesures de carrière contre elle. Alors, elle était revictimisée une deuxième fois. Alors, c'était une façon peut-être pour les forces de donner bonne conscience. Hein, parce qu'ils pouvaient dire à ce moment-là, mais il n'y a pas personne qui l'a rapporté, alors il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire. Non. Là, maintenant, la victime aussi a le choix de porter une plainte devant la Commission des droits de la personne, ce qui n'était pas le cas. Okay. Alors, c'est maintenant, c'est une autre bonne nouvelle qui a été annoncée le mois dernier. Alors, ça, c'est très bien. Maintenant, la victime a vraiment un choix d'aller vers un organisme indépendant, entraîné professionnellement dans ce domaine-là. Et je vois ça comme étant une nouvelle simplement extraordinaire qui va faciliter justement le signalement aux victimes.
Là, on avait évidemment un changement de garde au niveau là, du ministère de la Défense nationale. Je pense que c'était Mme Anita Nand qui était là avant, puis qui maintenant se fait succéder comme ça par Bill Blair. On a vu beaucoup de changements hein, dans les dernières années quand même là, au niveau du ministère puis des forces armées canadiennes. Est-ce que globalement, vous qui êtes dans ce milieu-là depuis de nombreuses années, est-ce que vous voyez vraiment des changements positifs puis un changement de culture au sein des forces armées?
Pas maintenant. Je pense qu'il y a un début, mais c'est certainement pas suffisant. Écoutez, le rapport de Mme la juge Harbour, avant ça, il y avait le juge Fisk qui avait fait un rapport détaillé. Le rapport Harbour avait au-dessus de 460 pages. Le rapport Fisk était très étoffé également. Mme Deschamps au préalable, il y a eu des rapports qui ont été faits par le vérificateur général, par Statistique Canada. Alors, c'est pas comme si le ministère venait de découvrir une crise. Ça fait longtemps qu'on lui dit. Madame, de façon très désappointée, Madame Annan, qui était la ministre de la Défense au préalable, lorsqu'elle avait reçu le rapport de Mme Harbour, elle avait tout de go accepté des recommandations et puis, enfin, c'était un acte de foi qu'elle faisait, qu'elle était pour le ministère, qu'elle était pour entériner ces recommandations-là. Mais elle a commencé à faire marche arrière lorsque la plupart des accusations d'assaut sexuel, plutôt qu'elle est transférée au civil, il y en a seulement que la moitié qui ont été au civil. Les autres sont toujours, font l'objet d'enquêtes par les autorités policières militaires et les tribunaux militaires. Alors, ce qu'on a besoin, c'est vraiment un ministre qui tient debout et qui prend des décisions et qui met le système militaire au pas pour accepter chacune des recommandations, mais pas seulement les accepter, mais les mettre en effet. Et je pense que le ministère Blair, du moins, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais il semble vouloir prendre les choses en main, et je le félicite et je l'encourage à continuer là-dedans. Il faut que ça change, et le temps est maintenant. Et il y a tout un aspect au fait des recommandations que j'ai faites, Mme Harbour, à laquelle on se traîne encore plus les pieds que n'importe où ailleurs. C'est les recommandations qui ont été faites concernant les collèges militaires royaux. Alors, ça, on a promis, le ministère a promis, Mme Annan avait promis de faire une étude indépendante. On attend toujours, comme je vous dis, ça fait un bout de temps de ça, et c'est critique, c'est l'institution par laquelle une majorité des officiers, des jeunes officiers qui rentrent dans les forces, sont formés, disciplinés et mis au pas. Alors, ça fonctionne pas au Collège militaire royal, soit de Saint-Jean ou de Kingston, on a un problème, puis on a un problème sérieux qui est là. Alors, je fais appel au ministre Blair de hâter le pas pour simplement mettre en musique toutes les recommandations de Mme Harbour.
Est-ce qu'il y en a, vous m'inspirez une question, M. Drapeau, est-ce qu'il y en a des recommandations qui sont plus pressantes là, à mettre de l'avant que d'autres? Là? Si on avait à en établir, là, ou en mettre en place une ou deux plus pressantes, plus urgentes, ce serait lesquelles, selon vous?
Il y en a deux. La première, c'est tout transférer, toutes les accusations d'ordre assaut sexuel aux autorités civiques. Alors, les autorités policières ou les tribunaux militaires. Alors, transférer ça aux civils, c'est la convention qui avait été faite. C'est Mme Annan, en 2021, quelques mois après avoir été nommée, avait accepté cette recommandation-là, mais on fait marche arrière depuis ce temps-là. Alors, c'est la première, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je pense, c'est les collèges militaires Et ça fait, comme je vous dis, au-dessus de 15 mois maintenant que Mme Amour a fait son rapport, un rapport qui nous a coûté quand même 5 millions de dollars, qui était détaillé à l'extrême, pourquoi il fallait qu'on prenne certaines mesures et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Et le ministère, avec 20 000 personnes au quartier général, ont tout le personnel, le talent, l'expertise voulue pour mettre en musique ces recommandations-là. Il n'y a aucune raison pourquoi qu'on prend cette période-là, sinon de mettre la pédale sur le frein et d'éventuellement penser que le public, vous et moi, on va oublier et puis on va passer à autre chose. C'est ce qu'ils ont fait dans le rapport Mme Deschamps, dans le rapport du juge Fisch et dans tellement d'autres rapports maintenant. Alors, c'est celui-ci, puis on doit presser le pas. Et la décision appartient pas vraiment aux autorités militaires, ça appartient aux autorités politiques. C'est quand même, les militaires sont soumis au pouvoir politique et c'est au ministre au fait de prendre les choses en main, de faire rapport régulièrement tant aux médias d'information qu'au Parlement et de nous convaincre au fait qu'il n'y a pas seulement que les choses en main, mais les choses changent. D'étudier les études faites par Mme Barbeau, c'est une recette au fait pour ralentir le progrès et puis assurer le genre de statu quo. Et je le déclame ouvertement.
On vous entend très bien là-dessus, Michel Drapeau. Vous êtes colonel à la retraite, avocat également en droit militaire. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin.
Merci à vous. Au revoir.
Analytique. Il réfléchit avant de parler. Persuasif. Ses arguments sont convaincants. Alexandre Morin-Villouellet.
Je te rappellerai que
1,3 milliard,
44 milliards de dollars.
C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. Ben, il y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. Ben c'est vrai, ça, il y avait une centrale nucléaire dans mon jardin.
Homme de chiffres, mais aussi homme de musique, Yves Daou, qui réussit toujours à nous trouver un morceau de parole dans une chanson qui vient représenter le sujet du jour. Puis évidemment, une centrale nucléaire dans notre jardin, peut-être, pour les gens qui sont tout près de la centrale nucléaire de Gentilly, Yves. Puis j'ai envie de dire, hein, pour un projet aussi controversé dans l'opinion publique que le nucléaire, mais quoi de mieux que de confier tout ça à un autre non controversé, SNC-Lavalin, qui s'en va évaluer tout ça.
Enfin, Alexandre, pour la chanson, c'est une chanson d'un auteur qui s'appelle Sartre Corlet, qui a écrit cette chanson-là, qui s'appelle « La saga des machins et des zinzins », qui était en 1993. Il avait fait cette chanson-là en raison du danger du nucléaire pas loin de chez lui pour une centrale. Et il termine son refrain en disant « Je dis hola hola, mais pourquoi on en a besoin ?» Et là, en fait, c'est un peu ça qui se pose comme question, parce que rappelle-toi, là, il y a quelques semaines, le journal a dévoilé en exclusivité que le nouveau patron d'Hydro-Québec, qui est Michael Sabia, avait enclenché une étude de faisabilité sur la relance de la centrale nucléaire de Gentilly 2, qui est inaccessible depuis 2012. OK? Ça, on avait cette centrale-là. Puis là, on est dans un contexte où on va manquer, au cours des prochaines années, là, d'électricité. Et donc, et ce qui est encore plus intéressant, la première communication que Michael Sabia, le PDG de l'Hydro-Québec, a faite à ses employés, il avait envoyé une lettre en disant qu'il y avait beaucoup de défis énergétiques au Québec. Toutes les options étaient sur la table, incluant le nucléaire.
Oui, puis quand on dit, Yves, que toutes les options sont sur la table, mais tu sais, ça incluait toutes sortes, évidemment, là, toutes sortes de choses. Yves, on va te rejoindre au téléphone dans quelques instants parce que je pense que le micro aujourd'hui là est un petit pépin de fonctionnement, mais c'est quand, voilà, toutes les options sont là. On parle évidemment de la sobriété énergétique, hein, qu'on a beaucoup préconisé du côté du ministre Fitzgibbon. On a parlé, bien évidemment, ben, de l'éolien qu'on va ramener, le prix du solaire aussi, là, qui est rendu beaucoup plus abordable. Mais bien évidemment, ben, on parle aussi, comme ça, c'est ça, de Gentilly. Yves, c'est une des options qui viendrait complémenter un peu, si on veut, le casse-tête énergétique au Québec.
Oui. Puis Alexandre, ce qui est encore intéressant, c'est que là, Hydro-Québec, ce qu'on a appris sous la plume de David Descoteaux ce matin, c'est qu'Hydro-Québec a mandaté la firme SNC-Lavalin pour alimenter les réflexions justement sur cette centrale-là. Parce que je te rappellerai que SNC-Lavalin, c'est la firme qui est derrière la technologie du CANDU. C'est un réacteur canadien
à l'eau lourde, là, sous pression, qui est celle qui était utilisée pour Gentilly. Donc, on a mandaté SNC-Lavalin pour travailler avec la direction d'Hydro-Québec pour évaluer si ça vaut la peine de repartir Gentilly 2. Ce qui est encore plus fascinant, Alexandre, et tiens-toi bien, il y a presque quelques semaines aussi, le PDG de SNC-Lavalin, Ian L. Edwards, s'est ouvertement prononcé sur l'importance du nucléaire comme source d'énergie. Donc, il y a eu une rencontre, appel téléphonique avec les investisseurs, et lui, très clair, là, il salive au nucléaire. Il dit, parce que si nous voulons atteindre le zéro net, nous avons besoin de l'énergie nucléaire comme base pour cet avenir énergétique propre. Et ça, c'est le PDG de SNC-Lavalin à qui on a confié là, le fameux mandat de revoir si on peut réutiliser le nucléaire à Gentilly. Je veux juste rajouter quelque chose qui est intéressant dans le texte de David Descoteaux. Quand Michael Sabia était à la tête de la Caisse de dépôt, et aujourd'hui il est grand PDG de Hydro-Québec, bien, c'est sous le règne de Michael Sabia qu'on est devenu aujourd'hui l'actionnaire majoritaire, d'une certaine façon, ou important, de 20% de SNC-Lavalin. Donc, en date de mai 2023, la Caisse, là, elle est principale actionnaire à 19,9%. Donc, écoute, tu sais, quand on dit tout est dans tout.
Ouais.
Donc, tu sais, SNC-Lavalin, l'option plus grand actionnaire, c'est la Caisse. À l'époque, c'était Michael Sabia qui a donné un peu le souffle avec la Caisse à SNC-Lavalin. Il devient PDG de Hydro-Québec. Il lance quand même une lettre de communication à tous ses employés en disant l'option du nucléaire est importante. On apprend après ça qu'il y a une étude de faisabilité qui a été donnée par Hydro-Québec pour évaluer tout ça. Et là, on apprend sous la plume de David Descoteaux que c'est SNC-Lavalin qui va alimenter les réflexions. Ça fait que si tu additionnes le 1, 2, 3, 4, 5, tu arrives à un total puis tu te dis ben il y a peut-être quelque chose autour du nucléaire au Québec.
Ouais, c'est peut-être plus proche qu'on pense, là, un retour comme ça, quand il y a autant d'acteurs qui sont favorables à tout ça, puis que nos besoins énergétiques, eux, augmentent. Ben, moi, je trouve ça quand même intéressant, là, sachant à quel point ça peut être long, là. T'sais, si demain matin, on décide de repartir Gentilly ou même d'avoir un autre réacteur modulaire, par exemple, ailleurs au Québec, ça va être long, là. Ça va être long, ouais, ça va prendre
Je pense que ça va être très long. Je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Puis, ce qui est encore plus intéressant, rappelle-toi le dernier sondage de Léger et le journal sur cette question-là. Et une majorité des Québécois pensent que c'est une mauvaise idée qu'Hydro-Québec posait davantage d'effets en construisant des centrales nucléaires. Je pense que déjà, là, le message est assez clair du côté des Québécois. Là. Mais tu sais, on ne sait jamais, hein, tout ça peut changer. Parce que là, rappelle-toi, les sources d'énergie, là, c'est pas compliqué, là. Il y a les barrages, potentiellement. Déjà, il y a une étude de faisabilité, de la possibilité de chercher une rivière pour peut-être construire un barrage. Tu as la question des parcs éoliens. On parle beaucoup des parcs éoliens. Il y a la question de l'entente aussi avec Churchill Falls à Terre-Neuve, potentiellement, tu sais, qui pourrait être une source encore d'avantage d'hydroélectricité. Puis évidemment, ben là, il compte beaucoup, Hydro-Québec, sur l'efficacité énergétique. L'idée que les gens vont devenir sobres énergétiquement, vont consommer moins pour faire en sorte qu'on produit, qu'on garde plus notre électricité. Donc, écoute, l'avenir de l'Hydro-Québec puis l'hydroélectricité, là, c'est un débat, là, que je suis certain qu'à la rentrée parlementaire va devenir un sujet important parce que le plan stratégique que déposera prochainement, probablement, Marco Sebiol va être étudié à la loupe quant à l'avenir de l'hydroélectricité au Québec.
Ouais, je suis juste content qu'on commence la réflexion tout de suite parce qu'on n'a pas fini d'en discuter. Puis plus tôt on commence, plus tôt on peut en arriver à une décision. Plus tôt on arrive à une décision, mais plus tôt on peut entreprendre des grands chantiers de l'avant ici au Québec. Sur une moins bonne note, Yves, on a une décision du gouvernement Legault qui, pour toi, ne fait aucun sens. Qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est Michel Girard qui a suivi tout ce dossier-là au cours de l'été. Tu sais que Michel Girard, qui est chroniqueur à la section argent, est beaucoup un défenseur des aînés. Au Québec, là, c'est Simon qui défend la situation financière et précaire souvent des aînés. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jugement qui a été fait par le tribunal administratif du Québec qui met en cause là, 28 000 personnes âgées en situation d'invalidité. Il y a des articles dans la Régie des rentes du Québec actuellement qui fait en sorte que si, par exemple, ces gens-là ont reçu, mettons, entre 60 et 64 ans ou 65 ans des rentes d'invalidité, ben s'ils arrivent à 65 ans, leur rente de retraite de 65 ans est coupée d'autant. On diminue Et selon ce que Michel explique, là, on peut diminuer là, jusqu'à 30 %, tu comprends-tu, de leur rente de retraite. Michel trouve que ça n'a pas de bon sens, mais il y a eu une contestation. Et évidemment, le tribunal administratif a jugé que ça contrevenait à la Charte des droits et libertés, que ça n'avait pas de bon sens qu'on puisse diminuer ça. Et en plus, le gouvernement fédéral, lui, a l'équivalent, et eux autres, ils ne coupent pas à 65 ans. Donc, Michel a quand même suivi ce dossier-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, on apprend, sous la plume de Michel Gérard, que le gouvernement va aller en appel de cette décision-là du tribunal administratif. Donc, ce qui soulève aujourd'hui, là, c'est que le régime des rentes du Québec là, est en très bonne santé financière. Écoute, au 31 décembre de 2022, la régie des rentes du Québec, là, c'est pour bien avoir dans ses coffres 106 milliards de dollars. Wow. Alors, Michel, il dit, là, on peut s'entendre que pour 28 000 personnes âgées, celles qui sont en situation d'invalidité, qui sont un peu des gens qui sont prêts, il y a une situation précaire au Québec, qu'on décide d'arrêter cette poursuite-là, puis qu'on leur permette d'avoir une rente pleine et entière à 65 ans. Donc, un point de vue à écouter à lire ce matin de Michel Gérard dans la section argent du journal.
Yves, en terminant pour cette dernière chronique de l'été, bien évidemment, là, il va encore faire beau et chaud pour quelques semaines encore, là, inquiétez-vous pas tout le monde, mais quand même, la plupart des gens ont terminé leurs vacances, Yves, puis en terminant nos vacances, des fois, ben le compte de carte de crédit suit pas longtemps après, puis en contexte inflationniste comme en ce moment, il y a peut-être des gens qui font le saut, là.
Hey, Alexandre, on n'a jamais parlé tous les deux autant de finances personnelles cet été.
Oui.
Et donc, je termine effectivement avec toi sur cette chronique-là que je pense que tu vas lire attentivement. Là, les gens ont reçu, ils ont passé leur mois de vacances, leur semaine de vacances. Et là, ils viennent de recevoir leur carte de crédit. Et là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils vont devoir la payer. Et donc, Emmanuel Gris, ce matin, dans la section du journal, dans la chronique dans vos poches, soulève quand même c'est cinq choses que les gens devraient réfléchir. D'abord, réduire le poids des intérêts. Il y a beaucoup de gens, là, c'est déjà connu, le dernier sondage de Léger disait que 19 % des Québécois ne payent pas leur solde au complet de leur carte de crédit, ils en gardent tout le temps. Alors, un exemple, il faut vraiment réduire le poids des intérêts parce que ces cartes de crédit, là, c'est 19 % de taux d'intérêt. Fait que si tu avais, mettons, 4 000 $ de sur ton sol, là, si tu ne payes pas ton sol là, rapidement, là, puis tu décides de faire juste le paiement minimum là, pendant toute cette période de 4 000 $, tu vas avoir des frais d'intérêt de plus de 2 752 $. Ça fait que, puis même si tu rembourses juste 200 $ par mois, là, tu vas avoir pour 905 $ d'intérêt. Donc, important de réduire le poids de tes intérêts. L'autre affaire, c'est rembourser dans le bon ordre. Tu sais, si tu as plusieurs cartes de crédit, là, commence à rembourser d'abord ceux qui sont plus dommageables pour toi. Repenser ton budget, parce qu'évidemment, il faut que tu cherches des liquidités pour rembourser tes cartes de crédit, puis revoir ses choix de consommation. Et donc ça, je pense que c'est une bonne chronique qui rappelle l'importance là, d'être un peu discipliné au niveau financier. Et en passant, je veux juste te dire, Moneris, là, qui était le grand fournisseur de solutions là, tu sais, de paiement électronique, là, vient de faire un sondage chez Angus Reid. Et ils se sont aperçus que les Canadiens, puis j'ai probablement la même chose chez les Québécois, où ils ont coupé. Ils ont coupé dans les restaurants, OK? Ils ont coupé dans l'alimentation. Et là, ils leur ont posé la question, si j'avais moins de 1 000 $, qu'est-ce qu'on ferait? Ils couperaient dans le divertissement et dans les restaurants, mais s'il y avait 1 000 $ de plus, où ils dépenseraient plus dans les voyages et dans l'épicerie. Fait que tu vois très bien là, que si les gens ont moins de d'argent, ce qu'ils vont couper, c'est le divertissement et le restaurant. Et on le voit déjà, là, ça se passe un peu partout. Là. Donc, bonne chronique ce matin sur les finances personnelles avec Emmanuel Grill dans le journal.
Yves Daou, c'était un plaisir cet été de collaborer ensemble. On a ri, on a écouté de la musique, on a chialé. Tu m'as entendu me plaindre du contexte économique en masse. Content qu'on ait pu faire tout ça ensemble. Je salue aussi Sylvain Larocque qui a été là pour plusieurs chroniques économiques également cet été. Gros merci à vous deux. On se retrouve le très bientôt à l'automne.
Salut Alexandre, au plaisir.
Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre Morin-Ville-Ouellette.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
La rentrée est à peine commencée en ce moment, Félix, puis on se rend compte que ben il y a déjà une petite controverse à l'école primaire de Richelieu. Une lettre qui a été envoyée à certains membres de l'établissement qui passent mal.
Oui, c'est ça. Ben, je te dirais, il y a trois. C'est drôle parce que cette nouvelle-là encapsule, si tu veux, là, trois grands thèmes de notre société actuelle en termes d'information, puis en termes de ce qui se trouve parfois dans les contenus d'information. D'abord, il y a un angle policier. Il y a un angle très, très, très éditorial avec, évidemment, les courants woke, inclusifs, et etc. Et il y a un angle aussi d'une mauvaise de gestion, parce qu'il y a eu des erreurs de gestion. Puis, il y a un angle qui est complètement diffamatoire. Alors, regardons les trois, si tu veux, dans l'ordre ou dans le désordre, juste pour faire le préambule. Donc, c'est une lettre qui est rédigée par la direction d'une école primaire à Richelieu. Dans cette lettre-là, on annonce aux élèves de 5e et 6e année que une nouvelle enseignante arrivera. C'est une personne qui s'identifie comme non-binaire. Donc, le Centre des services scolaires là, des Hautes-Rivières écrit cette lettre-là. Et du fait, les étudiants sont invités à privilégier le titre de civilité MX, donc prononcé mix au lieu de monsieur ou madame lorsqu'il s'adresse à cette enseignante-là. Il est aussi inscrit qu'à la rentrée scolaire, l'enseignante concernée va avoir une discussion en classe sur l'ouverture, les différences, les appellations de genre. Alors, puis on en a beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant. Elle demande d'utiliser le féminin pour parler d'elle, mais ceux qui souhaitent découvrir une écriture plus inclusive peuvent aussi aller la découvrir, peuvent aller cliquer sur un lien. Jusque-là, il me semble que tout va. En tout cas, tout va. Moi, je me positionne pas dans ce débat-là. C'est un peu un faux débat dans ma tête. Alors, je me suis mis sur la question, par exemple, de l'erreur de l'école. Ça, c'est de la commission scolaire ou du centre de service scolaire plutôt. Ça, je suis quand même d'avis que c'en est une parce que cette lettre-là ne devait pas être rendue publique. Et elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Le centre de service scolaire a demandé aux médias de ne pas publier cette lettre-là. Et puis, ça s'est retrouvé sur Internet. Et puis, là, c'est là où il y a une erreur de diligence. Donc, on n'a pas fait de diligence quand on et cette lettre-là ne peut pas se retrouver là sans qu'il y ait de conséquences. Et c'est d'abord pour l'enseignante. Elle-même, là, elle est au centre, elle arrive pour enseigner dans une classe au centre d'un débat qu'elle n'a pas nécessairement demandé. Puis elle arrive là pour enseigner, voyons bien clair. Deuxièmement, autre chose, les conséquences de l'erreur de la commission scolaire sont énormes, à tel point qu'on a dû appeler la police. Je ne sais pas si tu as lu ce qui s'est écrit sous les publications, en tout cas si t'es allé, ça dépasse toute forme de civilité, ça c'est bien sûr, mais il y a des propos injurieux, diffamatoires, mais il y en a surtout qui constituent des menaces au sens de la loi même. Alors, je trouve que ça va quand même assez loin, non? À chaque fois, moi, que ça va loin comme ça, ça me fait un peu craindre que, tu sais, qu'on perde un espace au milieu pour débattre, parce que c'est tellement pas, ça polarise tellement une partie de la population, ces enjeux-là, qu'il n'y a pas de place à débattre au milieu de l'enjeu. Il faut que tu sois vraiment campé pour ou campé contre. Et ça entraîne des propos très injurieux. Alors, tout ça me désole, Alexandre, du début à la fin, quoi.
Non, c'est triste. C'est d'une tristesse en même temps. Tu sais, quelle erreur administrative. C'est quelque chose que vous pouvez parler, tu sais, avec peut-être les professeurs de la classe, pas les professeurs, mais les parents de la classe précise. Ces gens d'affaires, vous pouvez même convoquer une petite rencontre. Tu sais, c'est tellement un sujet qui est sensible en ce moment, qu'après ça, de publier une lettre comme ça, de l'envoyer aux parents, puis se dire, il y a sûrement aucun parent là-dedans qui va mettre ça sur Facebook en se plaignant. C'était sûr que ça allait arriver, mais ça prenait pas la tête à Papineau pour voir ça.
C'est évident.
C'était évident qu'il allait avoir au moins un parent qui allait se fâcher, puis on essaye d'endoctriner mon enfant là, à l'identité de genre. Il va le rendre gay, mon fils. Il y a tout le temps quelqu'un qui...
La prochaine fois, il va virer trans, puis là, il va dire ça. Mais t'as raison, Alexandre. Ouais. Écoute, c'était l'évidence, c'était télégraphié tout ça que ça allait se passer. C'est pour ça que c'est quand même, c'est une erreur de communication, mais moi encore, je le répète, les conséquences, d'abord pour l'enseignante, sont énormes.
Absolument.
D'abord pour elle.
puis on en a besoin d'enseignants et d'enseignantes en ce moment, oui. En plus, dans les écoles. Oui. On peut-tu pas les exposer comme ça, puis déjà que pour des personnes comme ça qui s'identifient à certaines minorités sexuelles, minorités d'orientation de genre et autres, c'est des personnes qui sont déjà vulnérables, pour lesquelles il y a une haine tellement démesuré des fois, puis qui ressort, c'est sûr, sur les réseaux sociaux particulièrement. Je pense pas que ça a arrêté la meute d'or avec des fourches puis des torches, mais sur les réseaux sociaux, ça transparaît.
Oui, ouais. Et ça me pousse à ajouter à ta réflexion, à celle-ci, c'est que si on avait fait les choses à l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait plutôt privilégié la présentation en classe de l'enseignante, la discussion sur l'écriture inclusive, sur l'ouverture, sur l'identité de genre, sans envoyer une lettre, tu sais, qui est comme un télégraphe, tu sais, qu'on envoie, qui fait bip, 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 bip dans la tête de ceux qui sont, ma foi, plus intolérants que d'autres. Sûrement que non, on n'en serait pas là, parce que l'élève, je présume, revient à la maison en disant « Écoutez, maman, papa, on a eu une discussion avec ma professeure et puis mon enseignante, plutôt, puis elle nous a appris qu'elle ne veut pas se faire identifier comme un homme, comme une femme, puis elle nous a expliqué ici, puis elle nous a expliqué ça, certains concepts. » Puis je pense que là, quand c'est l'enfant qui ramène ça à la maison, si t'es normalement constitué, là, tu vas pas commencer à gueuler après ton enfant en disant « Hey, t'écouteras plus jamais ça, hein? Tu vas avoir une discussion avec lui autour de ça. » Donc, c'est ça. Mal fait, c'est depuis le début.
Oui, malheureusement, en espérant que l'enseignante en question, que je le rappelle, là, disait « On peut me désigner comme une femme, puis les élèves vont pouvoir me désigner comme une femme. » Il n'y avait pas d'énormes controverses ou de débats là-dedans. Malheureusement, elle est exposée dans tout ça. On lui souhaite bien évidemment là, d'être en sécurité, puis de ne pas avoir à vivre toute cette haine-là sur les réseaux sociaux. Bon, Félix... Parle-moi de mafia, là. Un cas. Il y a toujours des histoires extraordinaires que tu es capable d'aller nous pêcher, mais celle-là, je t'avoue que c'est une première pour moi. Un mafieux qui se fait arrêter, mettre la main au collet grâce à son caniche.
Ouais, au cours des dernières années, on a vu et lu plusieurs histoires de chefs mafieux très influents arrêtés dans ces circonstances assez uniques. Il y avait eu un barbier à un moment donné à Amsterdam, propriétaire de pizzeria en Belgique, qui était en fait déjà recherché par la justice italienne. Et puis là, il y a un des parrains de la Camorra qui a été arrêté près de Naples. Hein. Naples, c'est le paradis de la Camorra, c'est le berceau de la Camorra. On pourrait dire peut-être la troisième mafia la plus puissante au monde, après la 'Ndrangheta et la Cosa Nostra. Il a été arrêté à cause d'un petit caniche blanc. Il s'appelle Luigi Cacciapuoti, 64 ans. Vendredi dernier, on est à Villa Rica et puis il a été arrêté parce que son chien a trahi sa présence, en fait. Plusieurs mois, on le cherchait depuis plusieurs mois. Alors, le caniche, il appartenait à une femme que lui fréquentait. Et là, le flair des enquêteurs... On fait en sorte d'avoir un indice sur sa cachette. Et donc, en savant où était le chien, en sachant où était le chien, on commençait à savoir où était le gars. Quand ils ont remarqué que le petit chien était penché à la fenêtre à moitié fermée d'une grande villa, pour citer le texte de l'AFP, ça a comme un peu renforcé leur hypothèse que Cacciapuoti pouvait se trouver là. Alors, ils sont entrés. Puis ils ont trouvé Cacciapuoti, condamné à une peine de 15 ans de prison pour association de type mafieuse. La propriétaire du chien a aussi été condamnée pour complicité. Alors, trahi par son chien, Alexandre.
Oui, on espère.
Mais enfin, même pas trahi par son chien, trahi par le chien de sa maîtresse. Ouais. C'est encore pire.
Bon, en espérant que le chien lui-même va se trouver un autre maître ou une autre maîtresse au travers de tout ça, même si les deux s'en vont en prison, parce que lui, il n'a rien fait de mal, ce chien-là. Je tiens à le rappeler. Ouais. En terminant, Félix, une histoire qui avait fait un peu le tour du monde, là, cette histoire de quelqu'un qui a été interviewé complètement par erreur, par la BBC, hein, très grand réseau,
qui
maintenant cherche compensation.
Oui, je sais qu'il nous reste 2 minutes et je veux juste te dire en passant, moi, c'est une des erreurs réelles survenues dans le monde des médias qui m'a le fait le plus rire des 20 dernières années. En clair, là, c'est pas compliqué, cette affaire-là. Ça fait un petit bout là, que c'est arrivé, cette affaire-là. C'était en 2006. Il y a un gars qui arrive pour une entrevue d'emploi à la BBC et il s'appelle Guy Queenie, puis il s'en va passer son entrevue et puis la réaction des gens près des plateaux, tout ça, c'est de le prendre puis de l'amener sur un plateau de télé pour commenter une dispute légale en tant qu'analyste informatique avec la compagnie Apple. Il arrive sur le plateau de télé, puis il dit « Écoute, je suis vraiment surpris que je doive commenter ce verdict-là parce que je m'attendais pas à ça en venant ici. » Puis là, on m'a dit qu'on venait parler d'autres choses avec moi. Alors, je suis vraiment surpris. Je sais pas trop ce que je fais ici. Puis alors, il essaie de se lancer, puis il jette des regards à la caméra, puis il est en studio, puis il dit « Quoi? Pourquoi c'est drôle, les entrevues d'emploi ici? C'est curieux. » Alors là, c'était en direct à BBC que ça s'est passé, tout ça. Alors, ça a fait le tour du monde. Le tour du monde, ça a été vu 5,4 millions de fois sur les réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, il poursuit la BBC parce qu'il dit « Coudonc! » Il dit « Moi, je suis venu pour une entrevue d'emploi. » Puis là, il dit « Regarde ça, vous avez donc bien fait. » En tout cas, quelqu'un qui a fait de l'argent sur mon dos en mettant en plaçant ça sur sur YouTube. Puis il dit « Bon, je veux ma part du gros lot. » Je te laissais juste ça. Je trouve évidemment que la cause judiciaire est un peu est presque nulle et non avenue, puis gagnera pas. Par contre, je peux vous dire que si vous voulez rire un bon coup, allez voir ça sur les réseaux sociaux, fausse entrevue d'emploi BBC, et vous allez voir un gars qui arrive sur un catéri sur un plateau de télévision puis qui dit « Oh my God, what a twig! »
C'est trop drôle parce que c'est ça, c'est une entrevue, mais d'embauche, pas une entrevue télé. C'est succulent comme histoire, Félix. Moi aussi, ça m'avait fait beaucoup rire. C'est vrai que c'est une vidéo qui vaut la peine d'être vue. Hey, Félix Séguin, ça a été bien évidemment un plaisir et un honneur de partager les ondes avec un journaliste de ta trempe là, depuis le début de l'été. Et j'en profite aussi pour saluer Klaus, ton chat, qui fait partie aussi de nos chroniques tous les jours. On l'a vu pas mal cet été, on l'aime. Alors, merci beaucoup pour tout, Félix. On se retrouve très certainement à l'automne.
J'ai eu beaucoup de plaisir de faire tout ça avec toi. Merci à toi. Ça a été un honneur beaucoup plus pour moi que pour toi, je te jure. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. J'ai mis du temps et de l'intérêt dans cette chronique. Elle m'a bien plu.
Félix, gros merci. À la prochaine.
Bye-bye.
L'émission d'Alexandre Moranville est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca.
Après un an de recherche, voilà qu'on publie du côté de l'Institut de recherche et d'information socio-économique une nouvelle étude sur les repas donnés dans les écoles. Des repas scolaires gratuits qui pourraient être donnés parce que ça peut peut-être paraître surprenant, mais le Canada fait vraiment figure à part par rapport à d'autres pays industrialisés qui, eux, offre ça comme service aux élèves les plus jeunes dans notre société qui sont, pour la plupart des cas, en insécurité alimentaire. Pour en parler justement, Anne Plourde est chercheuse à l'IRIS, à l'Institut de recherche d'information socio-économique. Elle est derrière cette étude. Madame Plourde, bonjour.
Bonjour, Monsieur Moranville.
Vous avez-vous estimé combien ça coûterait exactement là, pour fournir un repas gratuit aux écoliers québécois, aux primaires et aux secondaires? Ça s'élève à combien, cette facture-là?
Nous, on a calculé que ça coûterait 1,4 milliard de dollars par année pour offrir le programme. Ça inclut un repas gratuit par jour pour tous les élèves et ça inclut aussi le service de garde gratuit pendant la période de repas pour les élèves du primaire. Ça inclut un revenu viable pour les travailleuses et les travailleurs du programme et aussi des investissements pour assurer un approvisionnement local en denrées. Et donc, ça veut dire aussi une injection de fonds directs dans les économie locale, notamment dans l'agriculture, là, qui pourrait s'élever à un minimum de 184 millions de dollars par année si on appliquait le programme tel qu'on l'a élaboré.
Oui, et là, parce qu'on est un peu, je le disais, on fait figure à part au Canada, c'est quelque chose que j'ai appris, je vous avoue, aujourd'hui, on est quoi, le seul pays dans le G7 à pas avoir un programme comme ça existant au pays?
Ben effectivement, en fait, c'est vraiment la norme à l'international d'avoir des programmes d'alimentation scolaire. Dans les pays à revenus élevés, là, en moyenne, il y a 61% des enfants du primaire qui bénéficient de repas subventionnés à l'école, alors qu'au Canada, il y a seulement 12% des enfants du primaire qui peuvent profiter d'un programme comme celui-là. En fait, on fait moins bien que les pays à faible revenu, où il y a 18% des élèves du primaire qui bénéficient d'un programme d'alimentation l'immigration scolaire. Donc, il y a vraiment du chemin à faire au Canada et au Québec. En fait, les montants qui sont investis sont pratiquement dérisoires. Là, on parle de 38 sous par jour par enfant investi dans un programme comme ça. Ça représente 0,35% du budget du ministère de l'Éducation, alors que dans un pays comme la Finlande, c'est plutôt 6% du budget du ministère de l'Éducation qui est investi dans leur programme d'alimentation scolaire.
Ouais, l'on fait piètre figure. Pourtant, il y en a ici des élèves, puis pas mal, qui sont en insécurité alimentaire, non?
Ben effectivement, puis en fait, c'est encore pire depuis le début de la pandémie. On sait qu'il y a de l'inflation et en particulier de l'inflation au niveau des denrées alimentaires. Là, on parle de 20% d'augmentation du prix des aliments depuis le début de la pandémie. Et ben ça se traduit par une augmentation de l'insécurité alimentaire également. Au Québec, à l'heure actuelle, on est rendu à un enfant sur cinq qui vit une forme ou une autre d'insécurité alimentaire. Ça représente plus de 200 000 élèves du réseau scolaire là, qui a de la difficulté, qui s'inquiètent là, pour sa capacité à se nourrir dans la journée.
Oui, puis au travers de tout ça, en plus, là, la facture fait peut-être bondir les gens. Là, 1,7 milliard, ça a l'air d'un gros chiffre comme ça. Mais selon ce que vous avez calculé, il y aurait même moyen de rentabiliser tout ça au final, parce que les investissements qu'on ferait pour ce genre de programme-là finiraient par retomber un peu partout dans la société.
Ben effectivement, puis tout d'abord, peut-être souligner qu'on a les moyens hein, au Québec d'investir dans un programme comme ça. Nous, ce qu'on recommanderait, c'est de réduire les versements qu'on fait dans le Fonds des générations chaque année. Si on les réduisait de la moitié, ces versements-là, on aurait les fonds nécessaires pour investir dans un programme et donc pour investir dès maintenant, en fait, dans les générations futures, parce que les besoins sont déjà présents, sont déjà criants en ce moment. Et effectivement, il y a des gains importants à faire. Je le disais, il y a des gains économiques pour les agriculteurs locaux, bien sûr, mais il y a des gains aussi en termes de persévérance scolaire, en termes de succès scolaire. Il y a des gains en termes de santé aussi. Et ça, ben, ça veut dire une réduction des coûts des systèmes de santé. On sait, là, il y a des études qui ont été menées dans différents pays qui montrent assez bien que chaque dollar investi dans un programme d'alimentation scolaire rapporte davantage là, que la somme qui a été investie. Nous, on a calculé que si on applique là, ces ratio-là au Québec, on aurait un retour de 1,9 milliard par année pour le 1,7 milliard qu'on investirait à terme. Donc, il y a des gains à faire. C'est vraiment un investissement à plus long terme.
Oui, à plus long terme, puis même à plus court terme aussi, ben pour nourrir tout ce beau monde-là, va falloir investir, ben aller chercher de la nourriture elle-même. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aller prendre chez les producteurs locaux aussi, là, de la nourriture bien québécoise, là.
Effectivement, nous, on a vraiment prévu des investissements pour qu'il y ait un approvisionnement local de ce programme-là. Donc, ça serait vraiment un programme économique en même temps qu'un programme social. Comme je l'ai dit, là, le minimum, là, si par exemple, il y avait 30 % d'approvisionnement auprès d'agriculteurs locaux, ce qui serait assez facile à atteindre comme cible, ben on aurait 184 milliards directement investis dans l'agriculture au Québec.
Oui, puis ça, c'est sûr qu'en plus, à un moment où on essaie d'atteindre une espèce d'autonomie alimentaire au Québec, mais c'est un objectif qui est intéressant. Tout ça, en plus, le calcul, je suis pas sûr qu'on en a parlé, puis qu'on l'a mentionné, Mme Plourde, dans ce 1,7 milliard-là, on inclut même le service de garde là, le midi pendant le repas.
Effectivement, c'est inclus dans le prix du repas. Puis ça nous semblait important de l'inclure parce que actuellement, les parents doivent débourser pour que leurs enfants puissent rester à l'école sur l'heure des repas, sur l'heure du dîner. Et donc, on devait prévoir un montant pour que les enfants pour que les enfants qui ont accès au repas aient aussi accès au service de garde gratuitement pour pas que le tarif du service de garde devienne un obstacle à l'accès au repas gratuit, évidemment.
Oui, ça c'est bien sûr. Là, aujourd'hui, ça vient de sortir un peu. Là, vous faites le tour des médias un peu pour présenter justement là, votre étude. Mais est-ce que vous avez eu des contacts au travers de tout ça avec le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation? Sentez-vous qu'il y a une ouverture quelque part pour un programme comme ça au Québec?
Ben, on a dû, nous, faire plusieurs demandes d'accès à l'information pour pouvoir mener notre étude auprès du ministère de l'Éducation. Et ben, à travers ces demandes-là, on s'est fait exprimer de l'intérêt pour notre étude. C'est certain qu'on va leur faire parvenir les conclusions de notre étude là, en espérant que ça va les inciter à aller de l'avant. Surtout qu'on a un gouvernement en ce moment qui se dit un gouvernement des familles. Donc, ce serait clairement cohérent là, avec les objectifs du parti au pouvoir actuellement.
Oui, surtout qu'en plus, ben, de famille, ils ont toujours dit que c'était l'éducation, leur priorité absolue, la priorité numéro un du gouvernement Legault. En tout cas, c'est très intéressant, cette étude. Madame Anne Plourde, vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, et vous avez participé, mais plus que participé, piloté cette étude là, qui voit le jour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci.
Au revoir. C'est ce qui met déjà un terme, bien oui, à cet épisode ainsi qu'à la saison de radio estivale qu'on vient de passer ensemble. Je suis bien évidemment extrêmement honoré, chanceux et heureux d'avoir pu passer ce temps-là avec vous en espérant que ça vous ait fait rire, sourire, informer cet été tout ce qu'on a fait. Bien évidemment, une émission comme celle-là, un programme de radio, c'est bien plus qu'une personne, même si c'est ma voix que vous entendez. Il y a d'innombrables gens qui sont ici à Cube Radio, qui travaillent derrière une émission comme la mienne et qui valent la peine quand même d'être soulignés là, pour tout le travail qu'ils ont fait. Bien évidemment, c'est Charlotte Duquette qui était à la recherche aujourd'hui avec moi, mais elle n'est pas toute seule. On a des gens comme Max-Émile Sawyer, qui est un petit nouveau chez nous, qui a travaillé beaucoup là-dessus. On a bien évidemment André-Sylvain Latour, qui pilote toute l'équipe de recherche, Florence Lamoureux, Cybelle, Olivier, Marianne, Bessette, qui sont tous des participants à la recherche derrière cette émission, sans qui ce serait bien évidemment impossible de faire la radio. Jean-François Roy, c'est le magicien derrière la console, derrière... Ben oui, il peut s'applaudir comme ça. Celui qui est plus vif que son ombre là, pour être capable de nous envoyer des extraits audio qui nous font toujours rire et sourire. Je rappelle, on a encore bien évidemment toute une journée de programmation ici à Cube Radio pour conclure la saison estivale. Et dès la semaine prochaine, dès le retour du long congé de 3 jours et donc mardi, on sera de retour avec la grille horaire habituelle. J'aurai l'immense plaisir, bien sûr, d'être avec Mario Dumont, de retour à la co-animation de son émission. Toutes sortes de sujets d'actualité. Mario, je l'ai vu un peu à l'ICN, il a l'air reposé d'attaques presque féroces, mon Dieu. De retour de vacances, ça a l'air de lui avoir fait du bien. J'ai bien hâte de partager les ondes en sa compagnie. Pour une dernière fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet épisode à Cube Radio. Je vous dis dès le retour pour la saison d'automne.
Cube Radio.